Bonsoir et bienvenue dans le podcast des Écrans Terribles, édition spéciale Berlinale 2019. Avec Carole Mielliri, rédactrice en chef des Écrans Terribles.
Coucou.
Avec Marine Legrand, vidéaste en herbe.
Coucou.
Et moi-même, Yael Simkovitch, tailleuse de costard malgré elle. Nous sommes encore vives en ce dimanche 10 février, bien que la fatigue commence à se ressentir, mais nous allons vous donner tout ce qui nous reste d'énergie pour aujourd'hui, pour ce podcast. Vous écoutez Les Écrans Terribles chez les ours, épisode 4. Pour ce quatrième podcast de suite, nous avons décidé de changer un peu la donne et de faire dans l'autre sens. Donc on va commencer par un petit chapitre ambiance festival Berlinale. On va ensuite parler du dernier film qu'on a vu, puis du premier film qu'on a vu. Spoiler, on en a vu que deux aujourd'hui. Alors, on va commencer par l'ambiance. Carole, Marine, l'une de vous deux, comment vous vivez la Berlinale en ce jour 4? Surtout Carole, tu as commencé à écrire des blogs avec un point de vue très...
J'ai commencé à écrire un journal intime sur le site des Écrans Terribles. Voilà, donc c'est une
journal intime sur la Berlinale, je précise.
Un journal intime sur la Berlinale, oui, pas sur ma vie en général, bah, mais forcément...
Ça pourrait, hein.
Forcément, je parle beaucoup d'éléments périphériques à la Berlinale que la Berlinale vient réveiller.
Ah oui. Ça vous intéresse de demander si vous voulez
un journal intime
en dehors de la Berlinale. Des questions précises.
Voilà.
On va faire un Q&A.
Maintenant, l'idée, c'était un petit peu de montrer comment l'expérience d'un festival, c'est aussi une expérience émotionnelle. Ça ravive plein d'autres souvenirs. Ça ravive des souvenirs d'autres films, d'autres festivals, des souvenirs de vie en général, des souvenirs d'enfance. Puisque même si on a les films qu'on critique dans les podcasts, etc., qu'on peut le faire depuis longtemps, on reste des êtres humains.
Je viens de dire que Marine vient de bâiller pour la troisième fois en 5 minutes.
Ça va être dur ce podcast.
Ce qui est un peu perturbant.
Vas-y, bâille complètement.
Et d'ailleurs, je voudrais dire... j'ai oublié de vous dire, ce podcast est entièrement dans les conditions du direct. Nous ne montons pas, donc tout reste... Vas-y, bye.
Non, ça vient pas. Si vous me laissez le faire, ça vient pas.
Tout reste en live. Et en fait, j'ai oublié d'ouvrir le paquet de mon gâteau. Donc du coup, je tiens à vous annoncer, si vous ouvrez un plastique, voilà, attention, c'est bon, maintenant, tu peux parler, Carole.
C'était l'instant, ravitaillement. Donc, c'est une expérience assez particulière, une expérience inédite pour moi d'écrire sous cette forme-là. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut, c'est une expérience, c'est à la fois très agréable et très effrayant de vous raconter tout ce que... Je vais vous raconter pendant cette semaine mon rapport émotionnel à la Berlinale. Et puis aujourd'hui, c'est une journée particulière puisque j'ai commencé la journée en perdant mon iPhone dans les transports en commun. Et donc, j'écrivais hier un papier pour mon journal intime et je publiais hier donc un papier sur le lâcher-prise, le fait de se laisser tomber littéralement. Donc voilà, ça a pris forme de façon très concrète... ce matin par la perte de ce téléphone. Donc les gens qui me connaissent, si je ne réponds pas à des messages, c'est pour ça.
Et d'ailleurs, si vous...
Et je ne peux plus surtout... mon problème, c'est que je ne peux plus Instagrammer. J'ai quand même une petite passion pour Instagram, je ne peux plus faire de stories.
Mais là, quand même, c'est tous les gens qui vont se plaindre que tu les appelles pas. Tu peux dire, ah ben, si t'avais écouté le podcast...
Déjà, je n'appelle pas parce que je ne parle pas au téléphone, en fait. Malgré mon âge qui commence à être un petit peu avancé, je suis un peu comme les gens de la génération 90 et 2000. Ah ouais. J'ai beaucoup de mal avec le fait de parler au téléphone, à part avec quelques personnes triées sur le volet. Donc, il y a un petit groupe VIP. Mais sinon, j'envoie beaucoup. Je ne fais qu'envoyer des messages et des mails. Et j'ai du mal à parler au téléphone. Et j'ai une phobie totale pour le fait d'écouter la message vocale. Donc, si vous m'envoyez un message sur ma messagerie, je ne l'écouterai jamais. Voilà. Et je ne cherche pas à résoudre ce problème. Comme ça. On a tous nos particularités. Et moi, j'ai une phobie de la messagerie vocale. Alors, j'arrive à peu près à la gérer. De temps en temps, une fois tous les 2-3 mois, j'écoute la messagerie vocale en mettant sur haut-parleur, de préférence avec quelqu'un à côté de moi, pas toute seule. Mais la plupart du temps, je mets un message comme quoi il faut m'envoyer un mail, ça sert à rien de me laisser un message.
C'est très intéressant cet aspect des choses que je ne connaissais pas et qui mérite de nombreuses conversations.
J'en ai aussi
et
la
pourtant, tu en sais des choses sur moi.
À la lueur de la chandelle. Non, mais ça me donne du coup envie de plonger un peu dans les profondeurs originelles de cette histoire. C'est pas pour te changer ou régler le problème, juste pour le comprendre. Anyway, donc ça, c'est, vous voyez, c'est. Voilà, pardon. Nous sommes dans un podcast sérieux sur le cinéma. Donc, Marine, bye pour la quatrième fois. Marine, toi, cette Berlinale ?
Cinquième fois. Berlinale, elle continue bien. Je commence à prendre des petits rendez-vous pour faire des vidéos, donc faut que j'ai des permissions après de ces gens-là. Voilà, ça avance.
Oui, parce que tu as l'intention effectivement de documenter un peu un autre regard sur le festival à travers
les dessous de la Berlinale.
À travers des petites interviews de gens qu'on ne serait pas habitué à interviewer.
Exactement. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère juste que je vais avoir vraiment l'opportunité de le faire parce que bon, il faut quand même qu'il soit. Enfin, ça ne dépend pas que d'eux en fait, vu que c'est des personnes qui répondent à d'autres.
Maîtres.
Maître, on va dire, oui. Enfin, d'autres.
Ils doivent en référer à leur hiérarchie.
Exactement, pour savoir s'ils peuvent me parler. Et puis, ça fait très officiel, mon truc. et sinon, bah, j'ai aussi passé ma journée dans les transports pour aller checker si le téléphone n'était pas à la maison.
Merci Marine, pour cet aller-retour.
Mais sous la flotte, le truc, c'est que je ne pensais pas qu'il allait pleuvoir, donc il a bien plu. Mais voilà, ça m'a permis de m'occuper du chat aussi.
Voilà. La Berlinale, c'est l'ambiance. C'est bien. Mais non, c'est vrai que c'est autre chose d'être en festival bien. Quand t'es à côté de chez toi. T'en parlais dans un podcast récent, mais j'étais à Cérémania en Lille que quelques jours, mais l'année dernière, c'est la première fois depuis très 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 longtemps que j'étais à un festival hors de chez moi, parce que généralement, je vais à Cérémania tous les ans, mais... Après, j'habite plus à Paris depuis longtemps, mais pendant
avant,
une période...
Avant, le festival était à Paris, donc c'est
voilà, et pendant un certain nombre d'années, j'ai continué à aller au Cérémania sans habiter Paris. Mmh. Donc, en venant à Paris à ce moment-là, et donc en étant en mode festivalier. C'est-à-dire que le matin, je me réveille, je vais à Cérémania. Le soir, je rentre à 1h30 du matin. Je passe ma journée à Cérémania, quoi. J'ai vraiment fait ça pendant des jours et des jours. Donc, plusieurs années consécutives. Et c'est vrai que Berlin, c'est différent. Effectivement, genre, il faut penser au chat, faut penser... Mais après, c'est bien d'avoir sa maison aussi. Mais moi, c'est pas pour rien que je me suis nommée tailleuse de costard magrelle. C'est vraiment drôle, j'ai vraiment un rapport à la critique qui est intéressant. C'est que ça fait des années. Alors bien sûr, comme toujours, je me suis constituée en apprenant à dire du mal des trucs. À savoir différencier ce qui était bon et ce qui était mauvais, mais surtout savoir différencier ce qui était mauvais. Hein, comme toute snob intellectuelle en construction et je pense en plus particulièrement cinéphile française, il y a vraiment un truc, l'impression que ça fait partie des rites de passage. J'en suis revenue d'abord parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime qui étaient décriées comme étant trop sentimentales, trop divertissantes, trop commerciales, donc du coup j'ai dû me séparer de cette habitude là et depuis quelques années j'assume complètement un point de vue de parlons du constructif, parlons de ce qui est intéressant, parlons de ce qui est bien, parlons de ce qui marche, essayons aussi de se rapprocher du propos, de la vision du travail de l'artiste avant de dire ah ça marche pas, de dire qu'est-ce qu'il a essayé de faire, enfin toutes mes conversations autour notamment de blockbusters, hein, Star Wars et compagnie, mais aussi de séries, beaucoup sur quand les gens disent « Ah, mais ils n'auraient pas dû faire ci, ils auraient dû faire ça », toujours « Non, mais faut pas dire ça, c'est un artiste, c'est un objet et tout ». Et quand je me retrouve dans une surconsommation, que ce soit à Cérémania, ça me fait pareil, ou en festival, tout d'un coup, je commence à avoir plein de trucs qui m'énervent, et là, je pars en mode sniper, et je commence à... avoir envie de descendre les trucs en flèche, de leur tailler des costards, et j'ai envie de le faire parce qu'il y a des raisons, parce que c'est des choses qui me posent problème, et je continue à me poser les questions du propos de l'artiste, de sa tentative, de sa démarche, mais malgré tout, je commence à voir que j'ai quand même un côté...
vindicatif.
Massacre à la tronçonneuse, mais surtout j'ai une facilité au massacre à la tronçonneuse qui est extrêmement jubilatoire, et du coup, je me disais souvent... à une époque, je me dis, je voudrais faire en fait une chaîne YouTube où je dis des choses, je parle des trucs que j'aime, et une fois par mois, c'est la descente du mois, quoi. Et une fois par mois, j'ai le droit de saccager quelque chose. Et saccage, une fois de plus, hein, en toute honnêteté intellectuelle. Mais c'est vrai que ça me questionne beaucoup quand ça m'arrive à nouveau, quand je commence à passer en mode sarcastic bitch toutes les 5 secondes. On a assisté tout à l'heure à un bout de conférence de presse. Enfin, la retransmission d'un bout de conférence de presse dans une salle de presse, et on ne pouvait pas s'empêcher de dire des saloperies sur les gens qui étaient sur le podium, et tu dis « Ah ouais, ça va vite quand même. On passe vite de l'autre côté du positivisme. » Donc voilà, m'amuse beaucoup. Hein,
c'est
ça
vrai
me
qu'on a
fait très
ce
plaisir,
côté
hein.
Un peu là, naturellement, qui ressort, quoi, une forme de... Ouais, une forme de méchanceté malgré tout aussi, mais quand on est en train de bitcher devant la conférence de presse. Et en même temps, le fait de voir plein de films de façon hyper rapprochée fait qu'on est encore plus exigeant d'habitude, parce qu'on est très exigeant, et c'est des choses dont on parle souvent ensemble et dont je parle dans le papier que je suis en train d'écrire aujourd'hui. Le fait que faire un film, ça prend du temps, ça engage de la responsabilité. que beaucoup de gens ont des très beaux projets qui ne verront jamais le jour, ou se battent pour des projets magnifiques qui n'arrivent pas à être distribués en salle ou sur des tout petits réseaux avec très peu de copies de films, et qui se battent pour accompagner leurs films en projection presse à travers la France, voire à travers le monde. Des films hyper indépendants, hyper guérilla. Je parle à des... Par exemple, je pense à des gens comme Amandine Gay avec le documentaire Ouvrir la voie, qui a un travail magnifique sur, sur la parole des femmes noires françaises et belges, et sur ce que ça signifie d'être femme et noire aujourd'hui en France et en Belgique. C'est fondamental comme travail, c'est intelligent, c'est délicat, c'est brillant. Et c'est un film qui existe à la force et à la sueur de sa réalisatrice, qui a monté une structure de production pour faire ce film, et qui l'accompagne depuis presque 2 ans maintenant, 1 an et demi, qui l'accompagne à travers la France, en Europe. Elle est venue à Berlin. D'ailleurs, j'avais vu des flyers pour ouvrir la voie dans les toilettes du Rosa Caleta.
Ah oui, oui, oui.
Le restaurant Travail Marine. Et en ce moment,
jamaïcain, donc ce qui explique aussi
qui explique l'intérêt pour ce
film-là, avec des gens qui parlent français en plus.
Et en ce moment, Amandine Gay fait la tournée des campus américains pour présenter le film. Donc c'est intéressant. Ces types de réflexions-là sur l'identité noire sont des réflexions qui sont plus saillantes, plus vivantes aux États-Unis, qu'on n'évite pas de la même façon qu'on les évite en France. Donc voilà. Donc il y a plein de gens. Et puis après, j'en ai plein des noms de réalisateurs, réalisatrices, scénaristes qui se battent pour des projets qu'ils méritent et qui n'arrivent pas à aller au bout, et qui arrivent au bout dans des conditions financièrement et physiquement éprouvantes pour eux, qui les mettent en danger. Et puis on a des gens qui ont des films sur des grands écrans, qui parfois font des choses qui montrent que leur réflexion manque de maturité, même s'ils ont déjà fait beaucoup de films, ou est trop hâtive et bâclée. Et que quand on a un budget, une production, parfois beaucoup de producteurs, un distributeur, et qu'on a une exposition internationale, il faut avoir vraiment quelque chose à dire. Et puis, enfin, c'est pas qu'avoir quelque chose à dire, il faut savoir s'exprimer, savoir le montrer. Et donc, je pense qu'on a raison d'être énervé quand des gens à qui on donne ce pouvoir ne s'en emparent pas de la bonne façon, en fait, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités.
Ouais. Alors, en même temps, en t'écoutant, je réalise que malgré tout, moi, je suis surtout bitchy et énervée vis-à-vis des critiques. Hein. Voilà, c'est des critiques, pas l'intelligence à la critique, c'est d'avoir vu trop de choses passer dans des publications institutionnelles, notamment américaines. Mais après, on en parlait hier, où les gens sont aussi ces jobs-là parce qu'ils sont capables de faire un rendu de papier rapide avec un mini résumé du truc, 3-4 phrases de critique, pensées préfabriquées, mais quand même, et que ce n'est pas des jobs que tout le monde sait faire. Et nous, on deviendrait tarés au bout de 2 jours, je pense. Et même si toi, je pense que tu aurais plus une plus grande endurance pour tenir le choc, mais au bout d'un moment, tu n'aurais plus le temps de réfléchir au film que tu voyais, donc ça t'énerverait. Mais aussi, les trucs sur Twitter et tout, c'est en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui se laissent avoir, en fait. Au-delà de la pensée préfabriquée, dont on s'est plaint quand même dans tous les podcasts jusqu'ici, il y a l'idée de se faire avoir par des artifices qui sont un peu faciles et ne pas réaliser... Mais c'est rigolo parce qu'on parle de This Is Us depuis le début, mais c'est vraiment ça. T'as l'impression, le syndrome This Is Us. Et une fois de plus, je dis une fois de plus parce que dans d'autres podcasts, j'en ai déjà parlé, je ne reproche pas aux gens d'avoir un attachement émotionnel ou d'aimer This Is Us. Je trouve que la façon dont on parle de This Is Us comme quelque chose de psychologiquement fort est une erreur. Donc This Is Us, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série américaine qui est censée faire pleurer beaucoup, mais qui en fait fait beaucoup de, pour moi, de drama un peu superficiel, avec des grandes révélations et moments émotifs pour tous les personnages, mais qui déjà sont un peu artificiels et surtout n'ont aucune conséquence sur la suite de l'histoire, enfin peu de conséquences. Donc il y a quelque chose un peu de... C'est très gratuit, en fait. Et c'est vrai que quand je pense aux certains films qu'on a vus ces derniers jours, et on lit des critiques dans le Hollywood Reporter qui parlent de réflexion sur la maturité, alors qu'on a vu que c'était des trucs creux, bah on se dit c'est facile de blouser tout le monde, en fait. Enfin, du coup, ça veut dire qu'il y a vraiment...
Oui, bah, quand on maîtrise la langue, on a des outils, des effets de style, des lieux communs de la pensée qui permettent de produire un papier qui tient la route. Et moi, c'est vrai que j'ai lu là, des papiers dans les magazines qu'on récupère au quotidien, des articles qui sont écrits très très vite. Parce que du print imprimé du jour au lendemain, on imagine la rapidité de la chaîne de production. On a l'impression que les papiers pourraient être écrits sans que le film ait été vu, en fait. Sur le résumé, sur 3-2 éléments biographiques, parfois, il y a vraiment des papiers qui enfilent les perles et qui se reposent sur des artifices de pensée. On cite, on fait une référence à un film précédent du réalisateur, on fait une référence à un autre film de festival de Berlin ou de Cannes, de préférence, pour faire un peu prestige. On fait référence à un grand réalisateur du patrimoine international. On passe les trois quarts de l'article à raconter le film de façon un peu subjective, un peu personnelle, un peu sarcastique souvent. Et puis en réalité, ça va pas beaucoup plus loin.
Et après, moi, ça, quelque part, me dérange moins, parce que je vois le travail, tu vois, le travail à la chaîne.
Le travail à la chaîne, le travail à la chaîne est difficile.
C'est le côté, dès qu'il y a un truc un peu plat et un peu intello, mais tu vois, qui fait effet, entre guillemets, ils sont là, quelle émotion. Et c'est ça, en fait, qui me dérange. Tu vois ce que je veux dire, c'est beaucoup plus ça qui me dérange que le fait que effectivement ils font les trucs rapidement en faisant des trucs avec une formule quoi. On parle surtout de Hollywood Reporter, Variety, des trucs américains.
On n'a pas lu de presse française.
Non, j'ai essayé de retrouver des trucs, mais je suis pas tombée sur les trucs assez rapidement, donc voilà. Mais on n'est pas en train de critiquer quelqu'un de spécifique en France pour une fois. Parce que moi personnellement, j'ai tendance à le faire.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement là, ça paraît. On sait que c'est hyper dur et c'est même fou se dire qu'il y a ces magazines sont publiés au quotidien pendant le festival. Ça veut dire que les papiers sont écrits ultra vite, que pour que ça soit maquetté derrière, imprimé, redistribué sur les sites de la Berlinale. Mais même si on a un quart d'heure pour écrire un papier, on peut le faire sans enfiler des perles, quoi. Si on est un journaliste qui écrit pour Hollywood Reporter, ou Variety, ou Screen,
je sais pas.
Moi, ça, la pauvreté de la pensée continue de m'embêter. Effectivement, il faut remplir les pages, donc ça veut dire que comme il faut remplir les pages en commande de temps, on passe plus de temps à raconter les films qu'à produire de la critique. On est plus sur des papiers journalistiques que des papiers critiques, en fait. C'est ça.
Mais c'est d'ailleurs.
Je pense que c'est en y réfléchissant, je me dis que c'est aussi un faux procès que je fais au film en disant ça, parce que c'est plus du journalisme pour laisser une trace, un peu une veille sur le festival, et c'est pas vraiment un exercice critique qui est produit dans ces revues-là.
Mais du coup, ce qui me dérange, c'est quand ils essayent de faire dans la critique naïve, quoi. Enfin, ouais. Qui font de la critique, et du coup, c'est très naïf.
Parce que du coup, les failles sont tellement visibles.
Effectivement, c'est des journalistes, c'est pas des critiques. Enfin, c'est après, voilà, c'est des trucs. Bon, voilà, et à part nos prises de tête critiques, toi, Marine, chose qui t'a marqué sur ce festival au quatrième jour ou...
Non, j'ai déjà. Non, j'ai déjà dit ce que je voulais dire. Non, j'ai rien d'autre à rajouter, ça va, c'est bien.
Commençons par passons donc au cinéma, le vrai, pas celui du gossip. Et commençons par le deuxième film qu'on a vu aujourd'hui, donc dans la compétition, qui s'appelle Mr. Jones, de Agnieszka Holland, réalisatrice polonaise, qui en fait a une filmographie très longue, avec notamment Europa en 91, qui a eu tout un tas de prix et surtout qui a eu un grand retentissement. Elle a aussi, ce qui n'est pas spécialement précisé dans sa page Wikipédia, enfin en tout cas pas de façon marquante, réalisé beaucoup d'épisodes de séries HBO dans les années 2000.
Par contre, dans le dossier de presse du film pour la Berlinale, c'est complètement intégré hein, pour The Wire, Cold Case, The Killing, Dream,
Très aimé.
Non, mais je peux la mini-série Rosemary's Baby, House of Cards aussi plus récemment. Donc, elle a commencé à faire des choses pour la télé dès 1995.
J'ai checké un truc par rapport à Out Stealing Horses. Pourquoi on n'avait pas de critique? C'est parce qu'il passe là à 21h ce soir.
Mais si, il y avait des critiques. On l'a lu tout à l'heure dans Variety.
Ben, pas dans Machin, pas dans Screener.
D'accord.
En tout cas, ils n'auraient peut-être pas dû faire parce qu'elle part c'est ce soir à 21h. En
fait. Non, il y avait une autre version qui était déjà diffusée parce que je l'ai déjà vue.
On se pose ces questions-là parce qu'il y a des films qui sont sous embargo. Donc il y a toute une stratégie de publication.
Pour la première, etc.
On s'est même parfois fait un peu flippant en se disant faut qu'on attende pour publier certains trucs.
Pour le magazine Screener, qui parle des trucs qui passent. Il passe ce soir à 21h. Donc je pense que la critique sera demain.
Donc nous, on a. Tu veux dire que nous, on a été dans, on est dans la contrebande avec notre podcast hier.
Peut-être.
Tintintintintin.
Non, mais en tout cas. Je sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui a écrit. Enfin, le truc, tu vois.
En même temps, il y a eu d'autres critiques.
Hein,
Hollywood Reporter a.
Hollywood Reporter a écrit hier soir. Non, c'est pas un problème.
Hier soir, dans, sur mais, le site. Donc,
mais Screener, vu que c'était le truc qui se passe dans le Berlin. Enfin.
Oui, peut-être que pour Screener, vu que c'est le truc de Berlin. Ouais.
C'est pour ça qu'il y avait
mais
pas.
Il y a un certain nombre de films. Pour les, enfin, c'est pour les films qui sont en première mondiale, où ces films-là sont sous embargo, et on est censé attendre donc une demi-heure après le début de la première projection publique du film. Sachant donc que nous, en projection presse, on voit les films souvent le matin, quand la projection publique est le soir.
Ouais, en fait, il y a des projections publiques à 16h, de trucs qu'on a vu le matin. Et,
vu que nous, on voit
c'est quelques heures plus tôt.
Le film qu'on voit le matin, souvent, est en fin de journée. Le film qu'on voit l'après-midi peut être le lendemain. Enfin, forcément, donc il y a un décalage entre les projections, les multiples projections presse et les projections publiques.
Il y a certaines projections spécifiques à la presse quotidienne qui sont du coup la veille au soir. Okay. Quand on voit les trucs à 9h, ils le voient la veille au soir.
Je pense qu'on disait tout à l'heure, pour le fait qu'il y a tout un travail de. De maquettes et d'impressions, donc c'est normal que ce qu'on appelle la Daily Press, la presse quotidienne, voit le film encore plus tôt pour pouvoir rendre ses papiers.
Ok, excusez-moi pour cette coupure.
Bah tu vois, t'avais encore un truc à dire sur l'ambiance
festival. Ouais, mais en fait, je vous rechequais, en fait, j'ai mal lu. Donc c'est complètement débile, il est passé à 18h30 hier.
Ça nous a permis d'expliquer un petit peu toute cette cuisine interne de la Berlinale entre les projections presse.
Je confirme, je suis fatiguée. Je ne vois pas bien. J'ai vu Berlinale Palace et c'était film Friedrich Palace.
Qui n'est pas du tout au même endroit.
Pas du tout au même endroit.
Donc. Du coup, maintenant, on va vraiment commencer le film Mr. Jones de Agnieszka Holland. Donc, qui a fait tout un tas de choses avant, notamment des épisodes de série. Mais en fait, j'ai réalisé, oui, elle fait partie de tout ce roster. Donc, roster en anglais, c'est un terme, je ne sais pas comment on dit ça, mais le pool, en fait, de réalisateurs indépendants, films de festival, art house, movies, comme on dit, européens notamment, que HBO aime bien, auquel HBO aime bien faire appel pour ses séries. Voilà, pour donner ils aiment bien aller chercher les gens du cinéma, notamment du cinéma non hollywoodien, qui du coup crée des rapports entre Hollywood et ses réalisateurs d'ailleurs, donc c'est assez intéressant.
Et elle a aussi réalisé, fun fact, donc Total Eclipse, Rimbaud Verlaine avec Leonardo DiCaprio. Voilà, c'était l'instant midinette.
Et qui s'appelle, non, je sais plus le...
C'est tout, Eclipse Total, Rimbaud Verlaine en français.
D'accord. Et elle a aussi réalisé In Darkness en 2011, qui a fait pas mal parler de lui, et Shpour, je crois que ça s'appelle Shpour, truc avec un loup sur le truc en 2017, qui a aussi fait parler apparemment de lui. Enfin, en tout cas, moi, bien sûr, je ne savais rien de tout ça, parce que je vais voir tous les films sans rien savoir. Je ne savais pas non plus qui était l'acteur principal, que je n'ai pas reconnu sur la photo que j'avais vue passer, et jusqu'à ce que Marine, quelques secondes avant le début du film, me dise oh, « bah, c'est le mec de Grantchester, James Norton !» Et là, j'étais oh, « James Norton !» Donc, comme vous l'avez remarqué, malgré mon côté, je t'ai dit star à tout le monde, je suis aussi une midinette absolue. Et j'avoue que mon intérêt des films est souvent lié au... Enfin, pas vraiment, parce que j'aime pas les films quand même, même quand ils sont beaux. Mais en tout cas, là, j'étais tout d'un coup excitée à l'idée de voir ce film. Je comprends dès le début, donc je donne une impression très rapide, je comprends dès le début que ça se passe dans les années 30 et que le sujet va être... On va spoiler ce film, je vous préviens. Que le sujet va être autour de... Bah en fait, de la veille de la montée du fascisme en Europe. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris. Je me suis dit, ah, c'est pour moi. Très rapidement, je me suis dit, c'est bizarre, James Norton est moins beau que dans Grantchester. Il y a un problème. Pour l'avoir vu en conférence de presse, il était aussi nettement plus beau. Et non, et du coup, je me suis dit, il y a un problème. Et effectivement, c'était un problème. Et finalement, j'arrive avec un film extrêmement maniéré, de plein de façons dérangeantes et confusantes, qui ne sert pas à grand chose, qui me raconte effectivement l'histoire de Mr. Jones qui a existé, mais de façon extrêmement compliquée et confuse. Et en plus, en ayant passé 10 minutes sur la page Wikipédia tout à l'heure, j'ai réalisé qu'en plus, l'histoire était. Enfin. En fait, il habitait à Berlin à l'époque, donc tous les trucs qu'il nous montre sur quoi qu'il est, comme quoi il est à Londres et tout ça, enfin, on est complètement à côté de la plaque. Et le film n'existe. Enfin, ne raconte pas. Et n'explique pas toutes les choses qui seraient essentielles à comprendre vraiment l'histoire. Et donc, je suis, en fait, super saoulée par ce film. Voilà, c'était ma première impression. Marine ?
Moi, je me suis pas endormie.
Parce que la seule à pas avoir dormi du tout pendant le film.
Moi, j'ai fait une sieste volontaire. J'ai senti qu'à un moment, ça allait être particulièrement chiant et on était sous la neige et ça allait être horrible. Et du coup, j'ai fait, je vais m'installer un peu plus confortablement. Je pense que j'ai dormi 20 minutes et c'était vraiment agréable.
Tout à l'heure, t'as dit 15 minutes. C'est avant, c'est
déjà. Je sais pas trop.
Non, je pense que c'était 7 à 10 minutes, mais c'est tout. Je pense que c'était moins. Parce que tu après, t'as dit. Ouais, je sais pas. Ouais, je pense pas. Enfin bon, c'est pas très important. En tout cas, t'as fermé les yeux et puis toi, t'as aussi fermé les yeux. Mais donc, je n'ai pas dormi, mais j'ai regretté de ne pas avoir fermé les yeux pendant 2 heures.
2 heures.
Non, parce qu'il y a peut-être 20 minutes dans le film qui pouvaient m'intéresser, tu vois ce que je veux dire.
Oui, d'accord.
C'est quand même. Je sais que c'est. Ouais. Pour leur dire que oui, j'aurais pu dormir pratiquement tout le film. Ouais, le film est filmé d'une façon très sombre par rapport à la lumière, qui est très dérangeant en fait, ce qui rend d'ailleurs l'acteur pas aussi beau qu'il devrait l'être. Il a l'air plus vieux, alors qu'on apprend. C'est spoiler, mais qui meurt avant d'avoir 30 ans. Enfin, donc, il est censé être jeune. Enfin, il est censé être dans la vingtaine. Et on a l'impression qu'il en a 37. Enfin, franchement, il a pas l'air jeune du tout. Et en gros, si c'était le seul problème du film, ça irait. C'est que notre cher James Norton soit...
Non, mais c'était signe qu'il y avait un
problème. Mais je trouve qu'il y avait vraiment ce côté sombre, en fait. Et en fait, déjà, premièrement, la première image, c'est encore des animaux. Et je me suis fait chier. J'en ai marre d'avoir des... Là, c'était des porcs, cette fois-ci. Et j'ai fait c'est un mauvais signe. Ça commence avec des animaux. Parce que personnellement, le dernier film avec des animaux, c'est... L'autre là, Out Stealing...
Horses.
Là, les animaux aussi. Tous les cris, machin. C'est chiant. Non, ça rend même pas. Je trouve que ça c'est un film qui rend même pas hommage à la beauté des paysages, de la neige, etc.
Vu
ce que ça raconte, etc. Mais même, je veux dire, tu peux avoir. Je trouve que le film en lui-même était pas beau et avec des images très très, enfin qui t'énervent parce que t'as des flashs, des machins, des images qui font pas partie. Il n'y a aucune explication, c'est nul. c'est illogique. C'est pas mal joué. Hein, c'est très, les acteurs sont bons dans leur rôle. Après, c'est juste que la réalisation n'est pas très bonne. Donc tu ne les trouves pas forcément bons. Mais comment il s'appelle j'oublie toujours son nom.
J'arrive jamais. C'est presque Skarsgård, mais c'est pas Skarsgård. C'est Sargard.
Le mec de Maggie Gyllenhaal.
Qui est dans The Killing, d'ailleurs.
Peter.
Oui, Peter Sarsgaard,
qui est très bien, hein. Il est très bien, t'as envie de le balancer quand il monte les marches, t'as envie de lui donner un coup pour qu'il se casse la gueule dans l'escalier, donc il joue bien son rôle. Les nanas sont bien, enfin je veux dire, les acteurs sont bien, c'est juste, c'est une mauvaise réalisation, c'est pas un bon film, quoi. Non,
moi je me suis fait chier. Je me suis fait chier. Au bout de 10 minutes, j'ai senti que ça allait pas bien se passer. Tout de suite, je me suis dit, ça sent le roussi. Hein.
Ça sent le roussi.
Et je me disais, hier, on a déjà atteint des points de non-retour et tout, mais en fait, non. En fait, on allait continuer à avoir des moments difficiles. Et là, c'était dur, à tel point que ma sciatique s'est réveillée, parce que j'en avais vraiment ras le cul de ce film, littéralement. Quoi. J'ai dormi pendant 5 minutes avant le moment où le personnage principal prend un train, juste ça, et commence son épopée. Et le seul moment, en plus, je me suis endormie un peu au moment, ce moment qui était peut-être un peu cool du film en fait, donc ça fait chier. Oui. Je me suis pas vraiment endormie, je luttais
selon
pour
elle,
pas faire
les
plein de
c'est cool,
c'est le moment avec Vanessa Kirby.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et à un moment,
le seul truc intéressant du film.
Ça me fait chier. En plus, quand même, je me dis là, le film, je me dis c'était en anglais et par moments en russe, donc je me suis dit deux langues que je comprends, je peux fermer les yeux et juste écouter. Après, je sais qu'en festival, j'ai déjà fait ça, souvent c'est comme ça, je m'endors complètement. Puis un jour, je me souviens d'un festival de Cannes. C'était devant Baccalauréat, film roumain. Je me suis dit, allez, ferme les yeux, j'écoute. Et là, je fais, ah, putain, merde, roumain, non, je peux pas, là, je comprends pas. Là, c'est trop éloigné du russe, c'est trop éloigné de l'italien. Je suis perdue, il faut vraiment que je me réveille et tout. Et là, je me suis frappé le visage, je me suis mis de l'eau et tout pour essayer de rester en place. Enfin, voilà, en plus, c'était une projection à 8h30, laisse tomber. Là, je me suis dit, je suis sur un terrain où je peux dormir un peu, donc je me suis permis pendant 5 minutes. Je voyais que les filles étaient réveillées. Après, j'ai vu que Yael tombait. Je me disais, ah putain, merde, il y en a une là, il y en a une qui a achevé. Je me suis penchée, j'ai vu que Marine avait des yeux grands ouverts, mais elle était immobile. J'ai l'impression que sa tête, c'était un masque. T'es en mode, bon, pilote automatique, je subis le film, je bouge plus. J'ai l'impression qu'elle était en apnée, c'était trop drôle. J'ai eu ce petit moment d'absence, mais vraiment quand je me fais chier, c'est pas juste j'ai vu la moitié du film et je me suis inventé le film dans ma tête, parce que c'est des choses qui peuvent arriver en festival. Et j'ai connu des gens qui dormaient pendant la moitié des films, pendant le fond d'un festival, et après qui te sortaient des trucs, oui le film il est ceci cela, et qui en fait parlaient de films qu'ils n'avaient pas vus, puisqu'ils dormaient systématiquement la moitié du temps. Mais voilà, donc là j'ai peu dormi, je me suis fait chier. Et je trouvais ça illisible en termes de réalisation, les effets de l'image, la désaturation, le travail sur le grain, la caméra qui bouge, le travail sur la profondeur de champ et sur l'usage du flou. Enfin, tout est illisible et maniéré. Et après coup, on sort de la projo quand même, on regarde un peu le dossier de presse.
Avant,
dans l'ordre, on regarde un bout de conférence de presse, c'est le moment où on a bitché dont on parlait tout à l'heure. Puis, on lit le dossier de presse en rentrant à la maison, et donc dans les deux, la réalisatrice dit quand même qu'elle a fait une réalisation subtile, un travail de la photographie subtil avec son chef opérateur, et qu'ils ont essayé de produire un style, de travailler sur des effets de style les plus invisibles possibles pour faire quelque chose de simple et réaliste. Donc le propos qui est tenu officiellement est aux antipodes de ce qu'on a vu à l'écran. Donc s'ils sont vraiment convaincus de ce qu'ils disent, eh ben, c'est tout simplement,
il y a plein de moments où on a l'impression d'être ivre.
Complètement.
On voit pas exactement ce qui se passe à l'écran. La caméra bouge de façon hyper désagréable. Effectivement, il monte les escaliers.
Quand il monte l'escalier, il monte l'escalier en même temps.
Puis t'as des moments où tout d'un coup, tout l'écran est... Il y a une obstruction, tout l'écran, quand il arrive à la... Toute cette scène, quand il arrive pour prendre son visa, il y a tous les effets de miroir, tu vois jamais un truc... Une image claire, c'est toujours des reflets du reflet du reflet. Et quand il arrive à un moment, t'es pas trop compris où sa caméra est derrière son épaule, mais tout d'un coup, tout l'écran est noir, et puis tu vois un bout de visage sur le coin de l'écran, et t'es là.
Ouais, et c'est plein de trucs
subtils.
Mais c'est subtil. De la sophistication hyper naïve en plus.
Non, mais des reflets dans le miroir, dans une fenêtre, des trucs, tu sais, genre, mais c'est même pas. C'est flou.
Oui, non, mais c'est ça.
Ça ne sert à rien.
Non, mais c'est le chat avec les pigeons, surtout. J'ai pas compris le truc du début.
Ouais, parce qu'Animal Farm. Parce qu'il y a encore ce truc, mais on va parler de l'histoire. Je veux d'abord qu'on continue à parler de la forme. Mais il y a un truc, notamment, il y a des scènes chaque fois qu'il prend le train. Donc d'abord pour aller à Moscou, puis aller en Ukraine. Je vais expliquer pourquoi dans une seconde, on va parler un peu de l'histoire. Il y a tout d'un coup une espèce de choses saccadées qui se passent avec l'image, où tout d'un coup ils sont en train de montrer les images un peu comme c'est avec une rythmique un peu étrange, où tout d'un coup les choses s'accélèrent, et où il y a tout d'un coup des images en noir et blanc qui, alors je subodore, sont issues de L'homme à la caméra de
Ziga Vertov.
J'en suis pas sûre, mais ça m'a fait penser à ça. Apparemment, dans le dossier de presse, il parle d'avoir, dans ces scènes-là, c'est inspiré de l'avant-garde soviétique, donc ça paraît tout à fait logique, du coup, que ce soit ça, ou en tout cas des choses inspirées par ça, des choses de la période. Mais ça aussi, ça n'est absolument pas explicité, clair, ni quoi que ce soit.
Et puis c'est inutile, en fait.
C'est lisible et inutile.
Des films qui travaillent un récit en couleur et un travail de reconstitution par la fiction peuvent intégrer des images d'archives, des images de films anciens, c'est quand même un effet de style récurrent dans l'histoire du cinéma de travailler ce genre de collusion comme ça des images de cinéma.
Black Klansman
le fait par exemple dans un, pour citer un exemple récent, mais là ça fait pas sens du tout, à part rajouter une espèce de maniérisme dans des moments, des passages d'images de train très saccadés qui n'en ont pas besoin.
Et puis, le vrai souci, c'est qu'il y a ils ne sont pas clairs sur leurs propos, en fait, sur ce film. Mais donc, effectivement, il y a un gros, gros souci. La caméra, elle est insupportable, c'est chiant. Et du coup, il y a des moments... J'en pouvais plus à la fin, parce que du coup, tu as des moments où tu crois que tu es libéré, tu as une scène normale, tout d'un coup, il recommence à partir dans des trucs flous et tout. Tu es là, pourquoi ?
fait 2h21, quoi. 2h21. Donc voilà, mais ça, ce qui m'énerve particulièrement, et c'est l'autre connerie qu'elle a dit, autre chose avec laquelle je ne suis pas d'accord qu'elle a dit pendant la conférence de presse. Donc l'histoire, donc cette Gareth Jones, c'est quelqu'un qui a vraiment existé, qui était un très jeune journaliste, qui en gros a décidé, après avoir rencontré Hitler et Goebbels et commencé à se poser des questions sur les plans du Troisième Reich dans les années 30, au tout début des années 30, hein, entre 31 et 32, il s'inquiète de questions sur ce qui se passe en Russie, notamment comment est-ce que la Russie fait en sorte de ne pas être dans crise économique alors qu'ils sont censés être dans la grande banqueroute totale, d'où est-ce qu'ils financent tout un tas de choses, et donc ils décident d'aller de façon non officielle, enfin, en tant que journaliste, en se cachant un peu, voilà, chercher, et il va se retrouver à aller en Ukraine et découvrir qu'il y a une énorme famine qui a été créée par le gouvernement russe en volant le grain, en fait, de l'Ukraine pour financer les dépenses de l'État. Ce n'est pas quelque chose qui est jamais vraiment expliqué, d'ailleurs. Hein. On voit la famine en Ukraine, mais il ne t'explique jamais vraiment, en fait, les tenants, les aboutissants. Si tu ne connais pas un peu le truc, tu es complètement... Le five-year plan, tout ça, c'était complètement...
Alors, là, pour le coup, le travail de l'image est en adéquation avec la façon dont on propose construire. Ouais.
C'est ça. Et en gros, il se trouve que à Moscou est en place un journaliste qui a gagné le Pulitzer dans le passé, qui s'appelle... En plus, j'avais l'appeler Novotny, mais il ne s'appelle pas Novotny, mais Devanti, un truc comme ça. Journaliste américain qui est le correspondant, du New York Times, et qui, en gros, lui, dit que tout ça est faux, et qui, lui, au contraire, œuvre à créer une espèce de pacification entre l'Amérique et la Russie, notamment au niveau des investisseurs, parce que les ingénieurs et du business anglais a commencé à se créer en Russie, et ils veulent le business américain. Ils veulent l'argent des États-Unis.
Duranti.
Et donc, du coup, lui, il dit, mais non, pas du tout. Voilà. Et donc, ce monsieur Jones a écrit ces articles qui ont été discrédités par Duranti. Et dans le film, il se fait du coup... Alors, donc, déjà, ça dure trois plombes, hein, parce qu'il a fini de faire son article au bout de 2 heures de film. Et en fait, il est discrédité. En plus, il y a tout un truc avec un chantage avec des ingénieurs anglais, mais ça, c'est jamais éclairé, enfin, expliqué ni quoi que ce soit. Mais en gros, personne ne veut l'écouter. Et il se retrouve à rentrer chez lui au Pays de Galles. Et finalement, par hasard, un monsieur qui s'appelle Hearst, il ne t'explique jamais qui c'est non plus, il se trouve un grand magnat de la presse, mais ça, pareil, si tu le sais pas, tu le sais pas, va en vacances au Pays de Galles et il arrive à s'introduire dans sa maison pour lui parler, lui proposer son article qui est finalement publié. Et en fait, t'apprends qu'après, il est mort en Mongolie alors qu'il était en train de faire un reportage et que probablement qu'un de ses guides était un envoyé des services secrets soviétiques. Voilà, ça c'est tout le film. Ayant regardé 5 minutes sur Wikipédia, donc déjà un des trucs, c'est qu'un mois après l'article de Duranti qui disait non, l'Ukraine n'est pas affamée, même si elle a faim, l'Ukraine n'est pas affamée, le New York Times a offert à Jones lui-même directement un démenti dans le New York Times. Donc une page pleine de réponses, de droits de réponse. Donc tout ce
donc
que
le côté on le soumet au silence et on essaie de le faire taire.
En plus à l'époque il habitait à Berlin, il a écrit ses trucs à Berlin. Alors l'autre truc c'est qu'il paraît que beaucoup de son travail a influencé l'écriture de Animal Farm. Donc, la ferme aux animaux, je pense.
La ferme des animaux.
La ferme des animaux de George Orwell. Du coup George Orwell est un outil narratif. Et c'est lui qui a les porcs. En fait, les porcs,
oui,
c'est
censé être les porcs.
C'est pas pour ça, je précise pour les... Et donc, tu le vois écrire, effectivement, et tu le vois, tu regardes à travers sa fenêtre, où t'as effectivement un chat à l'intérieur et un pigeon à l'extérieur, et le pigeon se reflète dans le chat. Effectivement, c'est un grand moment de cinéma. Et donc, alors du coup, on entend des extraits d'Animal Farm qui ne sont jamais explicités, qui ne sont pas les extraits les plus parlants ou les plus clairs. Donc, on est vraiment dans du fouillis narratif, mais absolu. Et dans la conférence de presse, oui, les journalistes, c'est important de nos jours avec le fake news, l'idée que chaque journaliste a peut-être des intentions à eux, machin. Oui, mais dans ce cas-là, si tu as vraiment envie de parler de ça, et la différence entre le travail journalistique et la vérité, qui n'est pas exactement la même chose, il y a en gros une phrase dans le film où il y a une nana qui dit la vérité, mais il n'y a pas... Il y a quelle vérité ? Chacun a son agenda. Enfin, en français, on ne dit pas agenda, ses intentions, quoi. Chacun a ses choses à défendre. Et finalement, à la fin du film, d'ailleurs, ce personnage qui est pas mal intriguant, surtout parce que l'actrice est très charismatique, Et à la fin, elle dit qu'elle est revenue à Berlin et elle dit « Tu as raison, il n'y a qu'une seule vérité. » Ça se termine comme ça, on n'entend plus parler d'elle, on ne sait pas ce qu'elle devient, on s'en fout. Passons.
Elle est beaucoup instrumentalisée par le film.
Oui, surtout qu'ils se sont connus depuis 3 jours et leurs adieux ressemblent à une espèce de truc déchirant où ils s'embrassent à moitié mais pas vraiment et elle lui gueule dessus, elle le pousse, c'est pas très clair. C'est très étrange. Même oui. Si tu t'es dit, surtout si tu t'es dit, bon, vous avez bougé ensemble ou pas? Parce que quand même, ça aurait été le truc intéressant. Parce que pour le coup, on le sentait bien venir et ça aurait fait sens. Passons. Ouais, tout ce que je viens de dire, c'est pour dire, c'est à aucun moment elle ne donne les clés de cette histoire. Et on a l'impression que dans les retours que j'ai lus sur les quelque chose que j'ai petit croisé sur Twitter, on a l'impression qu'il y a le truc de oh, oui, c'est vrai, c'est important, la liberté de la presse, c'est important, il faut soutenir les journalistes.
C'est un peu visé.
C'est bien, on se voit soi-même dans le sens du poil, c'est ça le délire ?
Non, c'est pas spécialement des journalistes qui écrivent ça, c'est plus des gens, des fans de cinéma ou des gens qui sont autour du cinéma qui ont vu le truc à la Berlinale ou quand on nous parlait du truc ou les acteurs même du film, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que. Bah oui, mais s'ils font défendre le journalisme et dire que la démocratie n'existe pas sans journalisme, ben quand même, il faut en parler correctement. Il ne faut pas créer une histoire où tu comprends rien, tu ne sais pas
qui. Moi, c'est ça qui me fait quand je dis le film me fait chier, c'est aussi ça. C'est que je trouve qu'il y a un sujet important, un beau sujet dont il faut parler, qui a encore une actualité dans ce que tu, par rapport à ce que tu en dis sur la question du journalisme, de l'actualité, de la façon de la traiter, de la façon d'aller chercher les vérités. Et puis, dans la page historique que ça raconte, que c'est un sujet fondamental. Et que le traitement est calamiteux. Alors qu'il y avait. Ça méritait un film magnifique. Ça méritait un film magnifique. La ferme des animaux d'Orwell, c'est un texte qui est encore extrêmement lu dans les écoles. Là, je refais mon instant prof de français. Moi, tous les élèves de seconde que j'ai l'année dernière avaient tous lu au collège la ferme des animaux. Ils n'arrêtaient pas de m'en parler. Et ils avaient tous été passionnés par cette lecture-là, y compris en particulier ceux qui lisaient très peu, qui me disaient. Je lis pas, mais je me souviens l'année dernière, on a lu ça. On a lu La Ferme des Animaux. Orwell, ils ont film. Tous. Ouais. Et je pense qu'on a tous vécu à un moment donné ce truc d'épiphanie de découvrir Orwell. Et ça te retourne la tête. Et La Ferme des Animaux en particulier, c'est un truc qui les a marqués. Et encore une fois, j'ai pensé à eux, comme ça m'arrive souvent. Et là, je vois ce film-là, je dis merde, c'est con. Parce que là, c'est une matière tellement incroyable pour ouvrir créer la discussion, créer le débat.
Et les deux scènes du mec, enfin l'auteur de toutes les fois où tu vois Orwell écrire son livre sans aucune explication de la date ou de ce qui se passe, t'as deux scènes où il parle avec Jones et Orwell a l'air tellement perdu, pathétique, fatigué. Enfin, je doute pas qu'il le soit, mais il y a quelque chose de. Enfin, vu que tu montres que ça de lui, c'est. Je sais pas, ça m'a saoulé. Oui, ça m'a saoulé.
C'était chiant.
Marine, elle est over it.
Ça m'épuise en fait de voir des merdes pareilles en fait.
Mais c'est ça en fait, c'est pour ça aussi qu'on est en mode bitchy. Parce que ça nous pompe de l'énergie.
Ça nous plombe. Je vous trouve assez bitchy, j'en rajoute. Moi, je dis juste des mots assez clairs.
Non, mais ce que je pense que la raison pour laquelle j'ai l'impression de vouloir tailler des costards à tout le monde, c'est parce que tout d'un coup, on passe des heures à investir dans un truc en se disant, mais toi, tu méritais pas mon temps quoi.
Mais j'y croyais en plus. Moi, j'y ai un peu cru, en fait, à ce film-là, avant d'aller le voir. Bon, peut-être parce qu'il y avait James Norton et que j'avais envie d'y croire, mais puis c'était une nana, quoi.
Ouais, c'était un film de nana, comme quoi.
Tu te dis hein, genre, bah oui.
Et je dis,
ouais. Tu peux dire ce que t'as dit.
On a de la distance aussi, on n'aime pas tous les films de femmes parce que ce sont des films de femmes.
Oui, tout à fait.
Et puis surtout, il y a deux jeux de trucs, déjà, j'étais là, mais si quelqu'un m'a dit, je dis, mais c'est une polonaise qu'il a fait, en fait. Et on m'a dit, j'ai dit, tout s'explique.
Oui.
Parce qu'effectivement, quand même, le cinéma polonais. C'est un trip. Ensuite, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est bon, déjà, j'ai regardé sa bio, j'ai fait, ah ouais, elle était copine avec Kislevski, donc c'est Kislevski, tout d'un coup, j'ai l'impression de dire mal son nom. Oui, c'est ça, hein, Kislevski.
Tu parles de qui?
Bah, le réalisateur, celui qui a fait le Décalogue, celui qui a fait Bleu, Blanc, Rouge.
Kislevski,
voilà, je me dis, là. Je parle de qui, je parle de qui.
Le nom me disait, enfin, c'est ça ressemblait.
Kislevski, voilà, c'est ça. Donc, j'ai dit correctement tout à l'heure, mais tu vois, entre-temps, j'ai... j'ai mes soucis. Et puis, il y a l'autre abruti là, qui a fait Cold War, que je n'ai pas vu, mais qui a fait La Femme du Cinquième. J'ai encore des frissons dans le dos. Donc, le cinéma polonais, c'est pas mon truc. Et l'autre truc que j'ai dit, c'est que oui, ça compte pas, parce que c'est la vieille garde. Elle est réalisatrice depuis plus de 30 ans. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui a réussi à évoluer dans le milieu cinématographique général a dû aussi s'adapter à une vision du monde qui est comprise et validée par le plus grand nombre. Donc effectivement, je pense que depuis 20 ans, il y a des choses qui s'ouvrent, notamment aussi à cause de la fragmentation des marchés et toutes les raisons qu'on peut fabriquer des films avec plus de facilité chez soi, différemment. Il y a des voix qui émergent un peu partout. Pas assez, mais il y en a. Quand on est quelqu'un qui sort du système, on peut avoir les mêmes maniérismes que nos camarades. Voilà. Après, je trouve que Kirby était bien, hein, dedans, Vanessa Kirby.
Oui,
son personnage n'a pas vraiment de sens, mais elle est joliment filmée, elle est joliment montrée. Elle est,
ouais, voilà. Ouais.
Donc, effectivement.
Mais les femmes, en général, sont d'ailleurs bien filmées. Enfin, à part bon, quand t'es mort sur le bord de la route, mais... Mais sinon, ouais. Parce que même la...
Parce que moi, j'ai dormi pour tout le passage où tu vois la famine en Ukraine.
De Lloyd George, là, machin, elle est très bien. Enfin, tu vois ce que je veux dire, elles sont toutes...
Mais en fait, t'as quand même un truc, chaque fois que tu penses à un plan de ce film, c'est un plan où tu voyais rien. Tu sais, où t'es là, je voyais mal, t'avais l'impression que t'as de la lumière dans les yeux.
Ouais, c'est confus, c'est sombre.
C'est sombre.
Tout le travail sur le grain, c'est hyper lourdant, quoi, en fait.
Y a pas cette luminosité.
Donc, du coup, je pense qu'il faut...
Le sujet, en plus, je trouve ça hyper redondant, parce que le sujet est lourd et dur.
Je veux dire, du faire en noir et blanc.
Donc, on en rajoute dans l'image.
Ils auraient dû assumer en faisant noir et blanc, ouais.
Non, mais sérieusement, en plus. C'est un film...
Peut-être.
Ça aurait donné un truc...
Après, voilà, j'aime pas réinventer les films, ils auraient dû faire ci, ils auraient dû faire ça. Elle a très clairement...
C'est moi qui le dis en même temps, c'est pas grave.
Non mais... Ouais, pas qu'on parle dans les travers qu'on dénonce chez les autres, mais...
Je suis d'accord.
Mais en tout cas, il y a un écart entre les intentions annoncées et ce qu'on a vu à l'écran, et ce qu'on a vu à l'écran ne rend pas service au sujet, quoi.
Non. Et petite information, pour revenir sur Ambiance Berlinale, en regardant la conférence de presse, j'ai réalisé quelque chose, parce qu'hier, j'ai essayé de regarder toute la conférence de presse de Ozon, que j'étais sur le point d'écrire mes trois petits posts Instagram en anglais pas très flatteurs vis-à-vis d'une grande partie du film, notamment des dialogues, de l'écriture des dialogues, et je voulais quand même regarder la conférence de presse pour quand même savoir ce qu'il avait de lui à dire. Et en réalisant ce regard de tout à l'heure, j'ai réalisé, parce que c'était hyper confus avec la traduction et tout, de la regarder tout à l'heure, hier soir sur Internet. Et là, en regardant ce matin... On a vu un bout de la conférence de presse du premier film dont on va parler maintenant et un bout de celui-là. Et en fait, je dis, tiens, c'est bizarre, c'est beaucoup moins confus qu'hier, je comprends tout ce qu'ils disent. D'un coup, je fais, ah mais oui, parce que toutes les personnes qui sont sur ce panel parlent anglais. Et ne sont pas traduits en plus. La seule personne qui est traduite, c'est celui qui pose les questions, qui les pose en allemand. Et donc, il y a une traduction simultanée en anglais par-dessus, mais les réponses sont en anglais. Les questions des journalistes, la plupart, sont en anglais. Avec Ozon, tout le monde parlait français.
Ouais.
Et je me demande si c'est l'effet Eurovision. J'ai remarqué déjà pour l'Eurovision, tout le monde donne ses notes dans l'anglais, sauf les Français.
L'exception culturelle française.
Techniquement, ça vient de la France, donc c'est pour
l'exception
ça.
L'exception linguistique.
Non, mais c'est voilà. Donc chacun parle.
Et puis en plus, ça perd beaucoup de temps, quoi. Ça divise le temps de la conférence de presse par deux au niveau du propos qui peut être développé par les intervenants.
Ça dépend parce que c'est simultané, hein. C'est simultané, donc c'est pendant qu'ils parlent les traductions. Donc oui, tu perds un peu de temps, mais c'est pas doublé, mais c'est simultané. Mais du coup, c'est très perturbant.
Mais ça crée de la confusion.
Et d'ailleurs, là, c'était pas génial. Enfin, la traduction n'était pas complètement fausse, mais tu ressentais qu'il y avait des trucs qui étaient un peu ratés. Je me demande ce qu'il en est des conférences de films allemands. Et je suppose que probablement c'est en allemand. Tu vois, avant de dire du mal que des Français. Après, on est à Berlin.
C'est vrai qu'on n'a pas regardé beaucoup de conférences de presse vu qu'on est beaucoup en projection.
Elles sont disponibles sur le site et
vous pouvez aussi les regarder. Elles sont disponibles pour le public.
Et voilà, mais je vais en regarder d'autres. Mais en tout cas, j'ai réalisé ça, j'étais là. Ouais, c'est vrai, ça ne nous viendrait pas à l'esprit de parler anglais, quoi.
Mais si quelqu'un leur posait une question en anglais, ils répondaient en français ?
Oui.
Alors que des Allemands, peut-être que si on leur pose une question en anglais,
ils vont répondre en anglais.
Mais
du coup,
ça
m'interpelle.
À checker.
Bon, c'est fini, Mr. Jones, go home. Go home, Mr. Jones. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser par rapport à Fatih Akin, en parlant de blagues sur les titres de films. J'ai lu quelqu'un qui a écrit sur le truc de Fatih Akin. This is the beer house that Jack built.
Mais quand vous parliez de Fatih Akin la dernière fois, ça m'a fait penser au film de Lars von Trier, effectivement. Ce film-là, j'étais dans la salle, j'avais très très peur en le voyant. Je savais que ça allait être dur.
T'es partie,
dès le début, ça a été hardcore. Mais il y a une espèce de distance... Enfin, il y a beaucoup de travail de déréalisation, le travail sur la voix off, t'es dans la tête du personnage, donc c'est encore un autre délire, un travail au 4e, 5e degré. Et très vite, j'ai dit, il faut que je trouve un moyen de survivre. À côté de moi, j'avais Feroz Emsilti, directrice de publication des Écrans Terribles, qui passait son temps à pester, à s'agiter, à souffler à côté de moi. Au bout d'un moment, je me suis dit,
c'est comme moi.
Je l'aime beaucoup, mais ça va être dur. Et au moment où je me retenais pour dire, Feroz, calme-toi, elle me dit, on s'en va. Et j'ai fait. C'était un moment de calme, on était déjà bien, voilà, bien usés par les projections. Je fais, moi je reste, je dors. Donc, elle est sortie de la salle et moi je suis restée et j'ai dormi pendant, je pense, les trois quarts du film de Lars von Trier.
Ouais, parce que tu vois, je suis pas sûre que tu aurais pu dormir.
C'est pour ça que je n'ai pas écrit dessus, j'en ai jamais vraiment parlé parce que mon besoin de survie fait que je me suis recroquevillée sur moi-même et je me suis endormie. Je considère que je n'ai pas vu ce film, vu ce que j'en ai vu. Parce que le peu que j'en ai vu font que j'ai pas envie de me l'infliger à nouveau.
Bah, écoute-moi un peu. Alors, passons au premier film de la journée, qu'on a vu à 9h du matin. Et une des questions, d'ailleurs, à la conférence de presse, c'était « Merci de m'avoir donné une bonne raison de me lever ce matin. » Donc, c'est une question que j'ai... Enfin, c'est un début de question, je trouve tout à fait judicieux de dire ça. Et donc, voilà, c'est un film qui s'appelle « Gaspod Pastore Imieto Ie... » C'est quoi son nom ?
Petronia.
That's right.
Qui veut dire God exists, her name is Petronia, donc Dieu existe, son nom est Petronia. C'est un film que j'ai apprécié dès le départ, il y avait quelque chose qui m'intéressait et que je n'ai fait que apprécier de plus en plus jusqu'à ce que je l'aime. Et de les heures qu'on suivit sa sortie, où en plus on avait une pause, on avait quelques temps, j'étais quand même assez portée par l'énergie et le plaisir d'avoir vu ce film. Et l'envie d'en parler et d'y réfléchir, de le revoir, d'en parler avec d'autres gens. Les bouts de conférence de presse qu'on a vus, c'est d'ailleurs là qu'on a découvert que la conférence de presse était diffusée sur le grand écran à la sortie du Berlinale Palace, nous ont fait... j'ai entendu la réalisatrice parler, j'ai dit « Ok, I'm in love ». Donc voilà, ça c'est mon impression. Girls.
Moi c'est un film, déjà je sais... J'en savais plus dessus que tous les autres parce que la photo m'avait, je ne sais pas, interpellée. Et donc, j'avais lu un petit peu le début du synopsis. Donc, en gros, je savais un petit peu ce qui se passait. Je savais que c'était un film de femme. Donc, après, j'étais genre... J'attendais ce film, en fait. Celui-là, il me disait genre... C'est bon, je vais me lever ce matin. Je sais que je vais voir un film que je veux voir. Et j'ai pas été déçue du tout.
Carole, avant que tu parles, je pense que je propose qu'on essaye vraiment de faire 5 minutes hors spoiler total, en espérant qu'il y ait une distribution et que ça va sortir pour que les gens puissent aller le voir sans savoir, dans les impressions. Et ensuite, par contre, on fera une sous-partie sur ce film où on se permettra d'en parler vraiment.
Très bien. Donc, parce que pour information, moi, je spoil très facilement. Je travaille là-dessus, mais c'est vrai que j'ai une tendance à laisser échapper des choses de façon générale, même quand on parle de série aussi. Je suis une calamité au niveau du spoil. Donc, je vais faire attention. C'était mon tour, du coup.
C'est pour ça que je te
dis. Moi, j'ai... Alors, je disais, le film m'a fait chier. Et là, j'ai ce film-là, je l'ai adoré. Pour l'instant, c'est mon film numéro 1. C'était un plaisir. Dès le début, dès les 5-10 premières minutes, il se passe plein de trucs. Enfin, dès les premières scènes, tout ce qui est dit, tout ce qui est montré, la façon dont c'est montré, je me suis dit, OK, là, tout est en place pour que ça se passe bien. Et j'ai pas été déçue du voyage, quoi. À tellement niveau, ça a été un vrai bonheur, ce film. Et oui, j'espère vraiment qu'il sera distribué et que beaucoup de gens pourront le voir.
Je suis en train de regarder sur le site de la boîte de prod pour essayer de voir s'il y avait des
infos sur les achats du film. On en saurait peut-être plus partir de demain dans les mags.
Il sort en France, il est déjà écrit. C'est Mr. Jones. Je sais pas,
probablement Mr. Jones.
Je sais plus, en tout cas j'ai vu un truc.
Parce que donc ce film vient de la Macédoine.
Malheureusement, Mr. Jones, mais non, je crois pas.
Donc les films macédoniens, j'en connais pas un paquet. C'est tiré d'une histoire vraie. Et qui a beaucoup fait réfléchir et parler la réalisatrice et productrice et actrice. Donc la réalisatrice et la productrice/actrice qui est sa sœur.
1er mai 2019, France.
Retenez cette date,
les 1er filles,
mai.
Mais les garçons
il y a
aussi.
Que,
mais...
Il n'y a que une date, c'est 1er mai 2019. France. La France.
Est-ce que ça ne veut pas dire que c'est Cannes? C'est pas Cannes, 1er mai.
Ah non, 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 si il passe à Berlin, il ne peut pas être passé à l'heure quand il
non, mais sinon, ce serait sinon, ce serait marqué Cannes, vu qu'il y a marqué Berlin, Tazneuf, Film et Festival, juste au-dessus, je pense.
Donc en fait, il a été.
Tu vas avoir que des exclusivités.
Donc a priori, il n'est distribué que.
Mais il a été produit par la France aussi, en plus. Il a de la production en France.
Bien sûr. Il a une production, oui, c'est ça, c'est France, Macédoine, Croatie. Croatie, ou alors la Croatie, c'était Mr. Jones. Putain, on est.
Non, en tout cas, retenez, 1er mai, c'est facile.
Voilà, Dieu existe, son nom est Petronia, je ne sais pas comment ils vont le traduire. La réalisatrice s'appelle Taoram. Aidez-moi.
Dieu existe, son nom est Petronia, c'est le titre
et le
français.
Le nom de la réalisatrice qui nous échappe,
c'est. Teona Struga Mitiewska.
Et Mitiewska, c'est le nom aussi du coup de sa sœur, Lubana.
Labina.
Labina,
qui produit Mitiewska. Le film et qui joue dans le film.
Oui, qui est une des
et
actrices.
L'actrice
principale, c'est
Zoreka Nusheva.
Et on est
qui
trop
a,
fan.
Et qui a liké nos Instagram.
qu'est-ce qu'on peut dire avant de...
De spoiler.
C'est un film... qui est en maîtrise de sa narration, pour le coup. Qui comprend ce dont il veut parler. Qui parle de quelque chose de très concret et très restreint.
C'est vrai.
Et qui, en même temps, est un propos qui a une je pense, une ampleur universelle. De façon, d'ailleurs, pas la plus évidente. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, ça se passe en Macédoine, et on a l'impression que c'est vraiment lié à quelque chose de local. Mais en réalité, je trouve que c'est une ouverture vers une réflexion plus générale sur quelque chose qui peut se produire dans plein d'autres endroits, sur des problématiques culturelles qui nous atteignent, nous aussi, dans un monde très différent de la Macédoine, même si chez nous, c'est peut-être un peu plus internalisé, et un peu moins ouvert et un peu moins public. Et du coup, c'est quelque chose de très spécifique qui est fortement universel. C'est un film de femmes sur les femmes, mais où il n'y a pas que des femmes qu'on a envie d'aimer, ce qui est quand même hyper important. Et j'ai vraiment, en sortant du truc, j'ai dit, mais on s'inquiète tout le temps de laisser aux hommes la responsabilité de la représentation des femmes, dans le sens où on en a marre de l'objectification, machin et tout. Mais quelque part, moi, je commence à en avoir ras la casquette de la représentation des hommes par beaucoup d'hommes. Et d'ailleurs, ironiquement, c'est notre ami Ozon, à qui j'ai, selon Gauthier, moindre élément essentiel des écrans terribles, taillé un costard, enfin on a tous taillé un costard aux ans, mais malgré tout je trouve que de tous les réalisateurs hommes qu'on a vus dans le festival, c'est celui qui a le mieux traité ses hommes.
Tout à fait.
Et qui leur a donné, qui a montré des hommes qui respectaient d'ailleurs les femmes de leur vie, qui se posaient des questions, qui étaient face à leurs émotions et leurs vulnérabilités. On est quand même. Donc, merci aux ondes pour le coup là-dessus.
On le met ça,
totalement. Mais c'est vrai que quand je pense aux mecs qu'on a vus dans. Bon, alors je parle même pas de Fatih Akin, mais voilà, il y a aussi les Scandinaves. Enfin, c'est surtout lui en fait, finalement. Bon, voilà. Mais du coup, là, les hommes de Macédoine. Et il y en avait un certain nombre à qui on avait envie de foutre des baffes, mais il y en avait plein d'autres qui n'étaient pas comme ça, et c'était vraiment beau, en fait, et vraiment agréable. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de dire sans spoiler trop.
Et sans spoiler, je trouve aussi qu'ils ont très bien aussi manipulé le côté dramatique avec le côté aussi comédie, en fait. Oui. C'est-à-dire que tu pouvais passer d'un moment qui te faisait rire, hein, et deux secondes plus tard, c'était genre... Ça te prenait... t'avais juste envie de rentrer dans l'écran et de soit t'occuper de la personne que t'as pas envie, tu vois ce que je veux dire, c'est juste
frapper quelqu'un ou protéger quelqu'un ou,
ouais. Ça te prend toutes les émotions, enfin
oui, le ton est très subtil, ouais. En fait, et très, mais en même temps très assumé, c'est qu'il y a pas l'impression que c'est
tout à fait.
Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la satire et de la fable, et on est sur une histoire dure, et c'est vrai que c'est incroyable le nombre de moments où on arrive à rire. Moi je me suis surprise à rire par moments. Et à rire parce qu'on rit avec les personnages, on rit de leurs réflexions, de leurs comportements.
Mais tout à fait.
Et il y a plein de moments ironiques aussi. Et ça fait du bien dans cette histoire d'avoir tous ces petits moments de respiration. Et je me suis dit, waouh, c'est fort. C'est fort parce que c'est vraiment maîtrisé. C'est vraiment maîtrisé. Ouais, c'est hyper intelligent. Pour le coup, c'est subtil. Hein, par rapport à ceux qui se prétendent subtils et qui ne le sont pas, là, c'était subtil.
Et il y a vraiment quelque chose, du coup. En termes de réalisation, en termes d'image, sur... C'est très... Voilà, c'est... là aussi, c'est subtil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des effets extrêmement maniérés. Il y a des effets, bien sûr, dans le choix de comment on filme et de ce qu'on filme, de à quel point on est proche ou pas du personnage principal, du type de plan qu'on crée, de la construction des plans.
La construction, la composition.
La composition des plans, il y a vraiment plein de choses. Mais d'ailleurs, je me rends compte que ce que j'ai préféré dans ce festival... il y a énormément de plans fixes que j'ai aimé dans ce festival. J'ai un truc sur les plans fixes, ou en tout cas les plans stables, dans le sens où il y a beaucoup dans Hound Dog, dont je me retrouve à parler tout le temps, donc ça a vachement plus marqué que ce que j'imaginais. Il y a des plans où la caméra tourne, la caméra pivote, mais clairement le pied est fixe. Et en fait, je trouve que moi qui ai envie de faire des films un jour, même si en réalité j'ai l'impression que c'est la 12e compétence que je serais capable d'avoir, mais quelque part, il y a quand même cette idée du désir de le faire. En même connaissance, je ne saurais jamais comment faire, mais bon, pourquoi pas. Et pour moi, l'idée de où tu places la caméra, et pas juste comment tu vas la bouger, mais où tu la poses, et être capable de pouvoir poser une caméra quelque part et dire, si j'ai aucun moyen, si j'ai pas les moyens d'avoir à l'époque des rails pour un travelling, si j'ai pas les moyens d'avoir une steadicam, si j'ai pas les moyens de trucs, est-ce qu'il y a un endroit où je peux poser ma caméra et juste en la posant là, il se passe quelque chose. Mais après, c'est peut-être un truc de trucs personnels, mais je trouve qu'il y a plein de plans fixes dans ce film que j'aime vraiment beaucoup. Et il y a aussi quelque chose sur la déco, la lumière, les fringues, enfin le fait qu'on est vraiment dans la Macédoine, quoi. Donc ouais, on est
dans la Macédoine.
Non mais en c'est Macédoine, je sais pas si
je sais pas
ça. No idea. Enfin voilà, les fringues sont épouvantables et la déco encore plus. Ce que j'adore, c'est
mais cette robe à fleurs, je trouvais très représentative.
Il y a une salle
de
entre guillemets de cette conférence. Zone géographique. Il y a une salle de entre guillemets conférence où il y a tout un pan du mur qui a un papier peint avec des arbres de la jungle.
Ah, tu vois, le truc, c'est que vraiment, c'est des trucs qui m'auraient gêné, mais dans ce film.
Mais là, c'est pas mauvais.
Ça monte le truc, mais ça va avec. Mais... Ça va avec
quoi. Ça paraît logique tout que ce soit comme ça, les éléments kitsch, un peu ringard.
Ce papier peint, il existe dans les toilettes du Tiki Art, un restaurant de Berlin, de burger. Ouais.
Mais voilà, bon, on spoil.
Ouais.
Let's go. Donc on spoil. Donc vous avez le droit d'écouter cette partie du podcast le 1er mai, une fois que vous avez vu le film. Le 2 mai. Allez, on vous laisse 24 heures. Allez, on spoil. C'est l'histoire d'une jeune femme de 32 ans qui est au banc de sa petite société parce que, clairement, selon sa mère et selon tout le monde, elle est trop grosse pour avoir un mec et pour être embauchée dans un bureau. Elle a en plus un diplôme d'historienne, mais c'était quoi cette idée d'apprendre l'histoire plutôt que d'apprendre le secrétariat, clairement.
Ou à coudre.
Ça commence par un plan, c'est la troisième fois qu'on voit le même plan, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, d'une nana couchée qu'on voit qui se réveille en étant la tête à gauche de l'écran de cinéma et le corps dans l'autre sens.
Premier plan, c'est pas ça. Hein. Premier plan, c'est elle et t'entends une musique qui fait « tac, 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 tac ».
C'est vrai.
C'est ça le truc.
C'est effectivement le premier plan, c'est elle au milieu de la piscine vide. Et ensuite, il y a la première procession. C'est là où la première scène dialoguée, elle est dans le lit comme ça, ce qui est la première scène de The Kindness of Strangers et ce qui est la première scène de The Ground Beneath My Feet.
Oui, exactement.
Où elles sont dans la même position, bon, alors pas, c'est pas la même taille de plan, mais dans la même position. Et une nana se réveille allongée sur le côté avec un plan, mais c'est fou quoi.
Dans l'inconscient collectif, je pense que c'est aussi une image forte parce que c'est une image de peinture. La femme allongée, enfin, tu vois, ça fait penser à les odalisques, ce genre de.
Et ce truc du réveil, donc dans le premier, elle se réveille toute seule, dans le deuxième, elle se réveille en sursaut. Dans The Ground Beneath My Feet, là, elle se fait réveiller par sa mère.
Avec de la bouffe.
Avec de la bouffe. Et donc sa mère lui dit qu'il faut qu'elle ait un entretien de boulot, elle doit chercher du travail, elle va à un entretien qui s'avère épouvantable avec un type qui la traite très mal, en lui finissant que quand même le problème c'est qu'elle est tellement moche qu'il aurait même pas envie de la baiser. Voilà. Et elle croise un rituel orthodoxe de l'épiphanie, donc il s'appelle l'épiphanie, après je sais pas si c'est exactement ça, où en gros, après une prière, le pop... Donc le prêtre orthodoxe jette une croix dans la rivière et les hommes se jette dans la rivière pour récupérer cette croix. Celui qui récupère aura apparemment, si on comprend dans la suite de l'histoire, de la chance pendant un an.
Ouais.
Et en fait, elle observe ce rituel et décide de se jeter, enfin, décide pas, se jette tout d'un coup à l'eau, trouve la croix qui lui est retirée des mains par les hommes, et ça commence une espèce de drame local où elle va finir par récupérer la croix, s'enfuir avec, et va passer ensuite 24 heures en résistance, en grande partie au poste de police, ne voulant pas donner cette croix, alors que tout le monde lui explique que elle n'avait pas le droit de la prendre vu que c'était une femme. Avec la question, ah bon, c'est écrit où ? On ne sait pas où c'est écrit. Enfin, voilà, justement, il y a une non-réelle discussion des tenants et des aboutissants de cette logique. Et voilà, ça, c'est l'histoire. Continuez, allez-y, dites ce que vous avez envie d'en dire.
C'est un film super intelligent parce que ça part d'un événement hyper simple. C'est l'histoire d'une fille qui attrape une croix dans l'eau au milieu d'hommes qui se comportent
comme des sauvages.
Comme des sauvages, parce que là, pour un coup, toute cette bande de jeunes torse nu
dans le froid
et pas montré sous son meilleur jour, comme une espèce de masse, quoi. C'est même pas des individus, c'est une espèce de masse, une meute. Ils forment une meute, c'est pas des individus indépendants, ils pensent pas. Ils pensent pas par eux-mêmes, mais ils pensent pas du tout. Et c'est juste un seul et grand corps, quoi. Donc une espèce de ce grand corps monstrueux d'homme qui se jette à l'eau, et puis elle toute seule en face. Et tout le film va travailler sur l'absurdité de cette tradition. Sur il y a plein de choses sur dans le dialogue, sur les jeux de langage pour justement se confronter les uns aux autres à l'absurdité de cette situation. Et on part de quelque chose d'un prédicat hyper, hyper simple, et on dit beaucoup de choses de l'archaïsme d'une société patriarcale. Alors le mot est posé à un moment donné par la journaliste qui couvre l'affaire et qui va essayer d'aider Petronia, et Petronia ne veut pas être aidée du tout.
Qui est jouée par la sœur de la réalisatrice.
Et donc cette journaliste jouée par la sœur de la réalisatrice, et ça va être un petit peu la... une forme de contrepoint à tout ce village, à toute cette masse masculine qui veut faire la peau à Petrunia pour avoir osé braver l'ordre patriarcal en volant cette croix en bois. Donc en plus c'est un truc super super naïf dans cette tradition, un truc un peu artificiel, mais de toute façon tous les rituels reposent sur une forme de naïveté, quoi. Mais là on a vraiment un objet qui paraît insignifiant mais qui est admiré, cette croix sculptée. Et oui, j'ai beaucoup... je trouve ça super... super, j'arrête pas de dire ça, je trouve ça super intéressant.
C'est super intéressant.
Non, j'étais interpellée par ce personnage de... Une journaliste, parce que c'est marrant, elle m'a fait penser à Courteney Cox dans Scream.
Oui, exactement. Oui, oui.
Parce qu'elle est hyper...
exactement Courteney Cox.
Elle est super bien, super bien brushingée, les chaussures à talons.
Je cherchais depuis le début, j'étais là, c'est qui ?
Elle est son micro.
Gail Weather,
tout à fait. Dans Scream, et là c'est quasiment là, voilà, c'est la version macédonienne de Courteney Cox dans Scream. La nana brushingée avec un joli manteau, des petites chaussures à talons, et qui court à travers la campagne là, puisque dans un coin un peu c'est vrai que c'est un bled, c'est un peu la Cambrousse de la Macédoine, quoi.
Je pense pas que c'est la Cambrousse de la Macédoine, je pense que c'est une grande ville de Macédoine, c'est juste que pour moi, ça ressemble à la Cambrousse, c'est pas la capitale.
Ouais, on voit pas, en tout cas, on voit juste les bords du cours d'eau, le commissariat, deux, trois baraques, quelques rues. On voit pas de grandes places ou de grands axes. Donc, ce qu'on en voit, c'est impressionnant. Une grande partie du film se passe de nuit. Et donc, on a cette journaliste qui s'affaire dans tous les coins, et elle est suivie par un caméraman que ça fait complètement chier d'être là, qui comprend pas, qui au départ comprend pas pourquoi elle s'est sur cette affaire, puis après, elle montre clairement que il est bas de plafond, qui a une coiffure complètement improbable avec les cheveux en l'air, hyper ridicule. Donc il y a tout un travail, je parlais de la satire tout à l'heure, dans l'apparence des personnages, la coiffure, les fringues. On travaille aussi sur des stéréotypes.
Je pense que lui et les
mecs... Mais sans les pousser, je trouve.
Je pense que c'est peut-être juste comme ça que... c'est la version du parisien macédonien, tu vois ce que je veux dire ? C'est que je pense qu'un mec de la ville, il est coiffé comme ça. Ça lui montre qu'il est un peu hipster, un peu cool, un peu branché. Moi, à mon avis, c'est ça que ça veut dire, cette coiffure qui, pour nous, fait hyper plouc.
Et puis, en tout cas, le décale par rapport au reste des autres personnages du film. Oui. Donc, on... Et puis donc ce type est obsédé par l'idée de juste faire des paris sur le foot, et ça le fait chier parce que il faut faire ses paris, et que là il y a cette nana qui l'embarque dans son reportage, et en même temps donc tout leur parcours nous entraîne à la rencontre de Petrunia, et vient pointer ben, toute l'absurdité justement de les situations.
Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que cette journaliste qui pourrait penser, on a quand même aussi l'idée, nous, racoleurs, de la journaliste télé qui cherche la news et qui va essayer de trouver ses parents, qui va lui faire parler, mais qui est clairement est la seule qui réalise la problématique misogyne.
Oui, elle est clairement humainement choquée.
Et qui se retrouve, face à un caméraman qu'on n'a rien à foutre, ça le saoule, il ne comprend pas. Quelque chose qu'on a tous vécu. Hein, dans des métiers où on parle d'un truc et les gens disent « Oh là là, t'exagères, oh, tout
ouais, suite. C'est pas grave.
Ensuite, son mec.
Ah oui, son mec, oui.
Qui est peut-être son ex ou son mec actuel, ouais, en tout cas, ne va pas chercher leur fille parce que ah, c'est trop compliqué, lui gueule dessus, alors que c'est elle qui est, alors qu'elle lui dit qu'elle est pas là parce qu'elle est sur un reportage. Et en gros, il y a plusieurs appels et il finit par ne pas aller chercher leur fille d'ailleurs.
Et la conversation sur le salaire entre le caméraman et elle, oui. Le caméraman part du principe qu'elle gagne plus en tant que présentatrice.
En fait, il parle même pas de ça parce que le truc, c'est, en fait, c'est encore plus subtil que ça, c'est qu'il dit.
Il est obligé de parler avec son salaire, ça lui suffit voilà. Pas à vivre.
Et tu crois que moi, je peux vivre mieux voilà. Et il fait. Pff, genre, c'est même pas. Je pense que tu.
C'est pas vraiment une conversation, c'est un échange. C'est, justement, mais c'est assez symptomatique parce que comment en deux échanges on aborde la question du salaire et de la précarité de cette femme-là. En tout cas, le fait que peut-être elle est pas autant payée qu'on l'imagine ou autant payée qu'un homme le serait à son poste.
Bah en fait, oui. Moi, je pense que c'est ça qu'elle dit.
De façon sous-jacente et ce que t'évoquais la conversation au téléphone sur son enfant, très clairement le fait que. En tant que femme, elle a géré la question de la logistique avec l'enfant, de la logistique familiale, alors qu'elle est sur le terrain. Voilà. Et pareil, abordée en une conversation hyper
brève. Et le journal aussi après.
Je voulais aussi préciser un truc avant, c'est que la conversation sur le salaire où elle dit « Moi, je crois que je touche pas plus. Quoi, tu crois que je touche plus que toi ?» Il fait « Ah !» un truc comme ça, il répond pas. Et ce que j'ai pensé, c'est j'ai pensé à des conversations que j'avais eues en Russie, des conversations qu'on avait encore dans les années 50 et 60, probablement plus tard que ça aussi, sur on ne paye pas les femmes au même titre que les hommes parce que ce n'est pas elle le chef de la famille. Donc en gros, le « hein », ça veut dire « oui, non, mais toi, tu n'as pas besoin d'argent, c'est toi, tu es la femme. Donc toi, tu n'as pas besoin de ramener de l'argent à la maison. » Il y a cette espèce de truc qui est vraiment où la plupart des métiers féminins en Russie sont vraiment payés 5 à 10 fois moins cher que les métiers masculins pour la simple et bonne raison que ce n'est pas nécessaire pour elle, c'est que...
Comme si c'était de l'argent de poche, quoi.
C'est ça.
Et après l'appel aussi au journal.
Et ensuite, effectivement, elle se fait virer à la fin.
Elle fait virer.
Elle s'engueule avec son boss et truc, à qui elle essaie d'expliquer la problématique du truc et qui, en gros, lui dit de rentrer.
Et elle décide de rester et elle prend la caméra du caméraman.
Oui, elle en renvoie chez lui, elle lui pique sa caméra et elle lui dit casse-toi. De toute façon, elle est louée, donc vas-y. Et puis elle finit en lui faisant deux gros doigts d'honneur en disant salut.
Elle se débrouille toute seule.
Voilà, et donc c'est très.
Et les plans sont beaucoup mieux parce que lui, ses plans étaient complètement pourris.
Oui, il y a un truc aussi depuis le départ que dès qu'il se passe un truc un peu important, il filme pas le bon truc.
Il filme pas le bon truc, il filme mal, il est jamais au bon endroit, tu le sens.
C'est les cadrages sont complètement pourris.
Et du coup, ça m'arrive au truc que j'ai adoré dans ce film, c'est que ce que j'essayais de dire tout à l'heure de façon à demi-mot, c'est que. Même si on parle de quelque chose de très spécifique avec une tradition et un archaïsme, la façon dont les gens, les hommes et les femmes, parce que sa mère aussi réagit de façon extrêmement violente, la façon dont les personnages de ce film réagissent, qu'ils soient ou pas religieux eux-mêmes, est une parfaite métaphore de la façon dont les gens font preuve de misogynie internalisée sans vraiment se dire que eux... Enfin, sans, plein de gens qui n'ont pas l'impression « Non, mais les hommes, les femmes... » C'est comme si c'est comme ça et ça doit pas être autrement, mais qui malgré eux disent bah oui mais quand même ça c'est pas normal, oui mais quand même ça c'est normal. Enfin il y a une espèce de reproduction de schémas de pensée qui sont au-delà de leurs véritables convictions personnelles. Et je trouve que si on le voit vachement entre le commissaire qui fait non mais en fait moi je suis pas vraiment religieux mais bon quand même. Enfin c'est une espèce de truc répété de gens qui agissent, qui l'insultent ou qui la maltraitent ou qui la lui font pression sur elle et lui disent qu'elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle fait sans avoir d'autre justification que c'est comme ça. Parce que les femmes. Qui est un truc d'une injustice absolue parce qu'en plus, c'est même pas une conversation, c'est même pas un argument. Il y a une espèce de juste truc naturel de bah, en fait, t'existes pas. T'as pas le droit d'exister.
T'as pas le droit d'exister, on voit que.
T'as pas le droit de prendre la place.
Elle essaie régulièrement de provoquer la parole et qu'en face, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas l'envie d'une réflexion. Et je pense que après, c'est... voilà, il y a un personnage pour nous... On parle qui lui Darko. Amène de la subtilité et
Darko.
Voilà, il amène de la lumière dans cet univers patriarcal et dans le portrait qui peut être fait de beaucoup d'hommes à l'intérieur de cette histoire. Et c'est intéressant cette nuance là. Donc ce flic qui lui souffre de la beaufitude de ses collègues, hein, il le dit clairement.
Au début, il est discret, puis au bout d'un moment, tu sens qu'il est fatigué.
On voit qu'il en peut plus et voilà, et qu'il va avoir des gestes de douceur, de tendresse par rapport à Pétunia, de protection. Il y a vraiment une très très belle scène où elle est trempée, il s'arrange pour lui trouver une couverture et les autres sont là, bon, tu fais ça, on s'en fout. Voilà.
Elle l'a bien cherché,
cette grosse conne, quoi. Et donc, il fait preuve d'une humanité qui nous paraît naturelle de l'extérieur, mais qui n'est pas celle de l'ensemble de ses collègues. Et il donne cette couverture à Pétunia, et ils se parlent, ils sont passés l'un et l'autre de chaque côté d'une vitre. Le plan est très beau. Mm-hmm. Et ça peut pas. Voilà, pareil, ça c'est le truc. Je trouve que c'est un film qui utilise plein d'effets de composition et de mise en scène qui pourraient être surfaits. Et là, pour le coup. Ça ne l'est pas. Contrairement à d'autres qui pensent réinventer la poudre et qui tombent à plat, là, le côté on est séparé par une vitre, c'est un truc que tu trouves dans plein de films, depuis l'histoire du cinéma, dans plein de clips, etc. La vitre est un peu en biais et il se passe un truc, je trouve qu'il y a une émotion, il y a une sensualité dans cette image.
Et très chaste en même temps, tout étant clairement pas chaste. Parce qu'il y a quand même, n'oublions pas que depuis le départ, il y a quand même l'idée qu'elle est trop grosse, qui est le premier truc dont elle parle avec sa mère, qu'elle ne sait pas s'habiller et qu'elle ne peut pas avoir un job à cause de ça. Et d'ailleurs, le mec, il dit, je ne pourrais même pas te baiser. Donc quand même, cette problématique-là est quelque chose qui clairement, le fait qu'elle n'est... Enfin, voilà, l'idée, c'est que la misogynie internalisée sous-entend que les femmes ont le droit d'exister tant qu'elles sont des objets sexuels potentiels. Enfin, il y a un truc comme ça. Mmh. Et que du coup, elle dit à un moment, je suis comme un animal. Et donc, effectivement, elle s'est permis de se jeter à l'eau aussi, peut-être. Elle n'en sait rien elle-même. Parce que, ben, de toute façon, je suis comme un animal. Donc, je peux faire ce que je... Enfin, ouais, je suis pas dans leur univers. Et du coup, c'est au moment où elle dit ça, justement, qu'elle a ce moment. Et donc, la sensualité de cette scène est hyper importante. Et en même temps, la chasteté de cette scène, le fait qu'il y ait une vitre entre les deux et qu'ils se tiennent la main, et qu'ils n'essayent rien...
Tout à fait.
Et que ce soit pas le but de ce moment qu'elle du coup elle peut se permettre de pleurer.
Elle est dans une grande fragilité. Et il montre juste qu'il est là. Voilà, il montre qu'il est là.
C'est pour ça qu'elle pleure d'ailleurs, vraiment. Et c'est hyper beau du coup que ça se passe à ce moment-là en fait, parce que du coup c'est ce moment-là et le retournement de comment on lui a fait se voir depuis le début. De sa vie probablement, enfin en tout cas elle dit...
Et c'est très beau aussi, c'est un moment où elle essaie pas de faire d'efforts pour être autre chose que ce qu'elle est. C'est un moment où elle arrive à s'assumer complètement, parce qu'au début malgré tout elle essaie de s'apprêter pour aller à un entretien, elle essaie en moment dans son discours de se conformer à ce qu'on attend d'elle, et puis petit à petit, à partir du moment où elle se jette à l'eau, ben, c'est le début d'une transformation. Et ce moment, cette scène avec le flic,
enfin, elle reste en résistance jusqu'à cette scène celle-là, parce qu'il y a quand même le fait où elle dit non à l'interview, elle dit non machin, elle est...
Oui, mais elle assume le fait qu'elle veut garder la croix. Je veux dire, elle s'est jetée à l'eau. Elle se dit pas juste ah oui c'est un coup de tête, j'ai eu un coup de folie. Elle se laisse pas avoir par la pression. Et la pression, je trouve ça, c'est énorme la pression qu'elle subit.
Oui, mais elle est encore
lui par contre, c'est le seul qui lui demande pourquoi elle l'a fait ça en fait.
Enfin, qui veut comprendre
et qui prend en compte sa parole. Les deux, à un moment donné, dans la pièce, il lui demande si c'était une provocation. Oui. Voilà, une provocation. Est-ce que c'était pas provocation? Et après, et donc
elle dit oui à ce moment-là.
Elle dit oui. Il l'amène à réfléchir à son action. Tu vois, et à se poser des questions par rapport à ça.
Alors,
en fait.
Alors que les autres veulent la contrôler, la dominer et la sanctionner.
Dire qu'elle n'a pas le droit, qu'elle aurait jamais dû faire ça et que ça a raison, ils n'en ont rien à foutre.
Il s'intéresse à elle et il valorise sa parole. Et le moment où ils ont ce truc d'intimité, c'est un moment donné où elle est trempée, où elle s'autorise à pleurer, où elle est pas dans le contrôle du tout en fait, de ce qu'elle projette comme image. C'est ça qui va en venir.
Et le moment où elle lâche prise
par rapport à son image. Complètement, elle est arrivée quand même au bout d'un processus qu'elle a engagé depuis le moment où elle s'est jetée à l'eau pour jeter la croix. C'est le moment où il y a cette connexion qui est possible et où elle est plus seule. Alors que moi, quand même, à la fois, il y a plein de moments qui sont très drôles et très cathartiques dans le film, et en même temps, on a le cœur déchiré pour cette personne. On se dit, mais quel courage, parce qu'elle subit tellement de pression scène après scène, qu'on se dit, mais Comment fait pour pas craquer?
La première scène avec lui, c'est quand il répond au téléphone et qu'il a sa mère au téléphone.
Oui, elle lui demande un verre d'eau. Elle lui demande un verre d'eau et il fait ouais. Et là, son téléphone sonne.
Il fait attends, faut que je prenne ça.
Et là, il fait
maman, je t'ai dit d'arrêter. C'est pas le bon moment pour m'appeler.
Et du coup, tu fais ah, il est mignon.
Faut que je le prenne. Faut que je le prenne. Mais jamais désagréable.
Il y a aussi le père. Il y a aussi il y a un mec à un moment qui se fait interviewer par la journaliste et qui dit oui, je comprends pourquoi c'est un problème.
C'est un de ses potes. C'est un facile,
il disait. Oui, mais en même temps, il a l'air plus vieux, donc elle dit un ami, c'est une journaliste. Oui, oui, oui. Un ami de. Ça peut vous dire de les croiser une fois dans le café. Après, je sais pas, la taille de la ville, c'est pas si tout le monde se connaît. Enfin, tout le monde n'a pas su tout de suite qui c'était, qui était jeté à l'eau. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, lui, il dit oui, je vois vraiment pas pourquoi les gens, ça leur pose des problèmes. C'est...
Il y a d'autres choses plus importantes, voilà. Quoi.
Le gouvernement. Oui, c'est deux différences. C'est l'ami dit ça, il y a l'autre qui dit aussi oui. Dit, vous pensez que c'est important le truc? Non, je pense que le gouvernement est corrompu et qu'il faut faire quelque chose sur ce qui se passe plutôt que de s'intéresser à courir après.
Une croix.
Mais donc, il y a d'autres hommes qui apparaissent. Puis il y a des hommes qui sont une figure tragique. Hein, le commandeur et le pope, ils sont un peu.
Non, mais c'est clair.
Ils sont un peu dépassés par les événements, quoi. Mais ce que j'ai pensé surtout, c'est que finalement, la morale de ce film. C'est qu'en osant faire ce qu'elle avait envie de faire et en osant dire et montrer, enfin, en fait, ne pas cacher sous le tapis la réalité de ce qui était en train de lui arriver. Donc, le fait qu'il voulait lui reprendre la croix, le fait d'avoir tenu, en fait, a fait sortir les loups des bois, en fait.
Bah oui, en plus, il parle du loup, du mouton.
Oui, mais enfin, là, pour le coup, c'est pas la même métaphore que je l'utilisais, mais il y a vraiment l'idée que du coup. La façon du coup dont les hommes arrivent et viennent attaquer le poste de police, en fait, c'est eux qui se finissent en prison. Mmh. Et que en n'ayant pas caché, ce qu'on fait beaucoup, en n'ayant pas internalisé et caché par honte, par désir d'apaisement, par désir de conciliation, ce qui était en train de lui arriver, elle a eu gain de cause. Parce que finalement, elle lui rend la croix, parce que finalement, ils se rendent compte qu'en fait, leur position est intenable. Ils se sont rendus compte des débordements et de la violence, entre guillemets, de leur précepte, enfin, de leurs fidèles, enfin, de ceux qui s'étaient jetés dans l'eau aussi. Et le pope réalise aussi le peu d'influence qu'il a sur
c'est clair.
Ces jeunes gens. Et elle, finalement, réalise sa propre force et n'a plus besoin de la croix. Donc il y a quand même un truc de morale, enfin une morale à la fin de l'histoire, que c'est en ayant laissé le truc à l'air libre, laissé le truc se dérouler, que finalement elle se libère elle-même de cette oppression. Il y a vraiment quelque chose.
Il y a une vraie fin.
Oui. Et il y avait quand même notre cher petit policier qui dit on reste en contact.
On était contente.
Bah oui, ben en même temps, c'est aussi.
C'est ce que je disais à Carole en sortant du truc, c'est que moi, j'ai vraiment besoin dans ces histoires de libération des femmes et de raisonnement autour du patriarcat et de tout un tas de choses qui nous empêchent d'exister et de respirer. L'aspect sensuel, sexuel, romantique est hyper important pour moi parce que j'ai un peu l'impression que dans ma vie libérée... de femmes modernes, il y a vraiment quelque chose qui est récurrent depuis longtemps de oui, mais enfin, en même temps, tu comprends, si tu parles comme ça, ça fait un peu peur aux hommes et c'est pas rassurant, du coup, on continue à me le dire en 2019, quoi. Donc, il y a un peu l'idée que j'ai choisi que le comme dirait la Reine des Neiges en français, le froid est pour moi le prix de la liberté, et ben le célibat pour moi est le prix de la liberté, quoi. C'est-à-dire que, après, c'est pas vrai pour tout le monde, mais j'ai un peu l'impression, en tout cas, surtout que c'est l'image que la fiction m'envoie. C'est que si tu veux être libre et dire ce que tu penses et oser parler de féminisme à tout bout de champ, ben...
Il faudrait tirer un trait sur le fait de pouvoir avoir un partenaire masculin dans sa vie, quoi. Mais c'était pas possible. Alors voilà. Qu'on a... Être féministe, ça veut pas avoir dire... envie de cette abstraction, quoi. C'est pas
mais
ça.
Non, si vous écoutez bien le podcast, vous avez remarqué que mon penchant est assez évident et marqué.
Ah bon?
Je vous rappelle le joli bruit que j'avais fait le premier jour. Sachant que j'aime autant les Suédois que Tarheim, donc c'est plus pour vous montrer.
J'aime bien les British aussi, sauf qu'il n'était pas chou dans
Mr. Jones. Ouais, mais il était très beau dans la conférence.
En vrai, il est beaucoup mieux. Oh.
Pardon. Donc, tout ça pour dire que oui, je... et du coup, c'était très important pour moi que cet élément soit là. Que ce, ça fasse partie du truc. Surtout qu'il y a l'idée qu'elle a été considérée comme grosse et moche par sa mère toute sa vie.
Elle est belle.
Elle est très, très belle.
Très, très belle.
Elle est ronde, très ronde, mais elle est vraiment très belle. Et en plus, on voit ses seins. Bon, je m'en serais passée parce que là, je collectionne les seins. Les
films, attends, l'affiche, on la voit.
Même temps, c'est la photo du film, mais quand même, ils ont l'air très, très beaux, ses seins. Même si l'angle fait qu'on ne voit pas exactement. Enfin, j'étais quand même assez impressionnée. Je dis à le dire. Non, elle est très, très belle. Mais du coup, cette idée, enfin, tu vois, du coup, c'est hyper important que ça fasse partie du film, ce personnage masculin, pour plein de raisons. Mais non, c'est un vrai plaisir, ça nous a fait... Puis alors, surtout, c'est vrai qu'on réfléchissait souvent à l'ordre des films, et c'est vrai que là, pour le coup, de voir Missa après Fatih Akin, c'est pas innocent non plus, quoi. Il y a l'idée de... Bon, on vous a fait subir Hanka, c'est le nom du tueur. Maintenant, en échange...
C'est un petit cadeau pour commencer la journée.
Je remarquerai quand même que les films de femmes sont les films du matin. Enfin, de femmes moins établies que notre amie Anishka. Mais c'est le film de 9h, du coup. Donc c'est...
On se dit où potentiellement certaines personnes ne vont pas venir, vont faire abstraction. Si projection tardise la veille, si fête, voilà.
Si dîner, si
sauterie. Beaucoup de gens commencent à suivre la compétition, essaient de la suivre en intégralité ou en grande partie. Mais c'est vrai que moi, je me faisais la réflexion ce matin que la salle le matin est toujours un petit peu clairsemée. Enfin, il y a du monde, mais il y a toujours des places vides.
Il y a toujours des places vides.
Et ça, j'étais surprise les premiers jours. Je pensais que la salle du palais allait être blindée systématiquement, quoi. Mais non, il y a toujours un peu d'aération dans la salle. Ce qui permet, en cas de souci, d'avoir toujours une place. Mais
les films complets, il y a eu Fatih Akin, ils ont dû d'ailleurs. Ils ont fait un truc supplémentaire. Et Mr. Jones, il fallait aussi trouver les. Et ils avaient deux séances. Hein.
Ouais, c'était un peu les têtes de gondole de la programmation, quoi.
Ouais, c'est ce que j'ai...
C'était pas fameux.
N'était pas fameux du tout.
Non.
Parce que... On est très contents de ce film
matinal. Et on espère vraiment, vraiment que...
Parce que l'autre film qu'on a vu aussi au Cinémax, le film dont tu parles tout le temps.
On God.
Voilà. Et ben, il n'était pas aussi complet. Hein.
J'aimerais bien savoir comment ça se prononce.
Bah écoute...
Je vais demander à Google cette nuit. Oui, non, il n'était pas complet.
Non, il n'était pas complet.
Mais c'est vrai qu'il m'a... Et en fait, il me...
Il y avait aussi deux séances, tu vois ce que je veux dire. Donc, ils auraient dû... ils auraient dû se bouger le cul pour aller voir ça plutôt que d'aller voir...
Mais bon.
Je sais. C'est les noms.
Faut avoir une opinion sur les noms. En tout cas, on a vu 9 films sur les 17 de la compétition. Donc, on a...
Oui. Enfin, et demain, il n'y a qu'un film de la compète.
Moi, j'ai fait des petites balades hors compète. Donc, j'en ai vu un petit peu moins. Après, Fatih Akin, c'est sans regret de ne pas l'avoir vu.
T'en as vu que 7. T'en as pas vu 9.
C'est ça.
Oui, c'est ce que j'ai dit. J'en ai vu 7.
Okay.
J'ai dit, j'en ai vu 7.
Je suis fatiguée.
Nous sommes toutes fatiguées.
Je suis contente de ce que j'ai découvert en parallèle, même si ça ne m'a pas spécialement plu, mais où ça m'a fait. Ça m'a fait turbiner, quoi.
C'est l'essentiel.
Ça m'a fait penser. C'est ça qui est agréable. On en parlait tout à l'heure en revenant avec elle, hein, le fait que c'est agréable de passer nos journées à pouvoir penser, pouvoir réfléchir, échanger. Mais voilà, tout ce que ces films.
Et puis penser sur le cinéma,
de façon permanente, quoi, là, en fait, tout au long de la journée.
Je pense sur les séries.
Et t'as pensé tout seul aussi, hein. C'est ça qui est agréable.
Dans mes cours, dans mes trucs, du coup, je pense sur les séries, vraiment. Je pense vraiment sur les séries. Penser sur le cinéma, je le fais, mais de façon extrêmement intermittente, en fait. Et là, du coup, quelque part, il y a une pensée qui se crée sur l'étendue du truc. En plus, j'ai une pensée aussi sur les posts que je suis en train d'écrire, comment je les écris, qui sont en fait un peu des cousins des tiens. Je parle un peu plus du film, mais je parle quand même beaucoup de moi et de mon rapport au sujet de chaque film. Et ça me fait une pensée aussi sur comment on parle du cinéma et comment on vit le cinéma, en fait. Il y a aussi vraiment ce truc de là qui reste encore plus sur ce truc entre le sujet du film et le film, en tant que film. Et d'ailleurs, dans la conférence de presse, monsieur Denis, j'ai oublié son nom.
Denis Ménochet.
Voilà.
Pour Ozon, en
fait. Voilà, qui, au bout de la huitième question sur la pédophilie, était là. Oui, enfin, en même temps, c'est quand même un objet de cinéma. Il faut aussi se souvenir que c'est un film à se voir en tant que film. Et j'ai envie de lui dire, bah non, justement, c'est un peu le problème du film. Et surtout, voilà, quoi. Je trouve que c'est celui qui joue de façon la plus dérangeante de tout le film. On a plus parlé de Melville Poupeau à cause de, voilà, du fait qu'il était aussi expressif dans le truc où il vient un serial killer. Mais.
Il y a des choix de direction d'acteur qui totalement, sont voilà. dérangeantes. En
François
fait,
est vraiment... François, oui, le personnage de François est vraiment à un ton exagéré. Ah oui, on a aussi découvert un truc sur Ozon, c'est qu'on a enfin compris exactement ce que c'était. C'est de la mauvaise... Pas bonne. C'est de la scripted reality au budget. C'est-à-dire que c'est le scripted reality, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des fictions basées sur des faits réels. Où du coup, c'est des choses qui sont faites sur des chaînes avec très peu de budget et où les gens jouent tous un peu mal et c'est un peu mal dialogué. Et c'est de la reconstitution, en fait, de faits divers. Et donc, voilà, j'ai décidé que Ozon avait fait de la scripted reality de luxe. Mais tout de même. Voilà.
C'est génial.
Et du coup, j'étais en train de réfléchir à un autre truc sur la construction de la pensée sur les 9 films, c'est qu'on a beaucoup d'adaptations et de trucs de faits réels. Donc... Bon, pas The Kindness of Strangers, pas System Sprenger, mais ensuite Ozon, c'est basé sur des faits réels. Ouais. Undog, c'est basé sur des mythes et histoires réelles. Et un truc à la fin, il y a écrit basé sur des faits réels. Et du coup, c'est hyper rigolo parce que ouais. C'est le public a éclaté de rire en fait. Alors que c'est pas un film, tu vois, mais le public, par rapport à ce qui venait de se passer, a dit OK. là, au côté de son lampadaire qui fait pipi sur son truc de grossesse. Et tu ne dis pas ah, ça, c'est un fait réel. En passant. Donc en tout cas, c'est basé sur des faits réels. Ça fait deux basés sur des faits réels. Ensuite, on a eu The Queen Beneath My Feet, je pense pas. Pas regarder le truc, c'est pas un roman, non?
Non, je pense pas.
Ensuite, on a eu l'adaptation d'un roman, Out Stealing Horses. On a eu Fatih Akin, qui est une histoire réelle. On a eu ce matin Gaspard, c'est une histoire réelle, mm-hmm. C'est vraiment produit. Et justement, en fait, la réalisatrice parlait du fait que ce soit vu comme une espèce de curiosité locale plutôt qu'un scandale, une dénonciation du patriarcat, lui a donné envie de faire ce film. Et tout à l'heure, Mr. Jones, c'est basé sur une histoire réelle. C'est-à-dire que sur 9 films, il y en a 5 qui sont basés sur quelque chose de réel et 1 qui est une adaptation de livre. Et sachant que dans les basés sur les faits réels, il y a des choses qui sont des adaptations de livres. Certains sont des... Mais du coup, je trouve ça intéressant parce que c'est un peu un truc que je reproche aux Oscars tous les ans. Le Oscar movie, le truc... on a raconté la vie de Stephen Hawking, de machin, de Turing, de, tu vois, le côté, la facilité de faire un film d'Oscar en racontant l'histoire de quelqu'un. C'est quoi l'horrible film Churchill.
The Darkest Hour.
The Darkest Hour. Bon, ça raconte pas sa vie, mais ça raconte... voilà. Enfin, c'est vraiment des trucs... Et c'est pareil, c'est le degré zéro de la réflexion historique.
Mais c'est vrai qu'on a quand
même.
Et
du coup,
beaucoup...
en fait, pour un festival, je suis étonnée qu'il fasse, qu'il tombe dans la même.
Mais je pense qu'en fait, il y a quand même aussi beaucoup de films qui sont des adaptations. Enfin, la part d'adaptation dans la production cinématographique est importante.
Je m'en rendais
et
pas
puis,
compte.
Et puis, je pense qu'en festival, je pense que c'est un syndrome de festival, le côté on veut parler du monde, donc on va être sur des sujets sociaux, donc ça appelle le film inspiré de faits réels. Mais je suis d'accord avec toi que là, la propension est quand même très, très appuyée.
Et vu que je ne sais rien des 8 films qui restent, je ne peux pas encore élaborer là-dessus, mais à voir.
Et moi non plus.
Eh bien, sur ces bonnes paroles, nous allons souhaiter une bonne nuit, parce qu'il est presque l'heure de se coucher, non? J'espère. Et quelle
heure? 20h40.
Bon, peut-être pas tout de suite, mais un peu quand même. Surtout que notre prochain film est à 8h30 demain matin. Et la Biennale a eu l'intelligence de nous envoyer un email pour nous rappeler que la séance de demain matin était exceptionnellement à 8h30.
Je l'avais rappelé 2 secondes avant.
Mais Carole disait que c'était pour que les gens se plaignent pas.
Oui, parce que t'imagines, tu t'es habitué à venir à une séance à 9h tous les matins. À la bim, t'arrives à 9h moins le quart, la porte est fermée, le film est commencé, tu peux pas rentrer.
Tu fais la
tête. Ça pourrait grincer. Donc je trouvais ça très... très bien vu de ce petit mail. Et je tenais d'ailleurs à signaler que la communication de la Berlinale est particulièrement efficace. On a reçu en amont beaucoup de mails sur les films ultra précis, des annonces hyper carrées, que le site est hyper pratique pour trouver les photos, les dossiers de presse, etc. Plein d'éléments. On a une application aussi qui est super pratique pour organiser notre planning. Mm-hmm. Alors, je dis pas ça pour mousser la Berlinale, mais ça nous, au quotidien, ça facilite vraiment la vie, en fait. La qualité de ces outils et de ce qui est proposé,
ouais.
C'est un vrai bonheur.
Je suis tout à fait d'accord. Et mais bon, allez voir aussi la qualité de ce que nous proposons sur les écrans terrestres. Donc, c'est le quatrième podcast. Si vous n'avez pas écouté les trois premiers, n'hésitez pas. Ils vont bientôt être sur iTunes. On y travaille ardemment. Vous pouvez aussi lire, bien entendu, les billets, blog, journal, intime, réflexion, révélation de Carole.
Sur www.lesecranterrestres.com.
Voilà. Moi, sur mon Instagram, à YALKYALKAA, je fais en trois posts et en anglais des critiques, des reviews de chaque film. Ces textes-là vont connaître probablement un avenir aussi sur les écrans terribles, aussi en anglais. Donc voilà, vous les retrouverez à un moment ou à un autre. Mais voilà, je m'amuse à faire ça. Vous pouvez aussi suivre Marine sur Instagram à Écureuil Berlinoise, Carole et Elinor _ Ronil, qui est le contraire d'Elinor, les lettres dans l'autre sens, et bien sûr l'Instagram des écrans terribles et @écranterribles au pluriel. Vous avez aussi un Twitter, mais il y a plein de choses sur Instagram.
Sur Instagram et sur Facebook aussi.
Et sur Facebook aussi. Et vous pouvez aussi suivre, me suivre sur Twitter, à YALK. J'ai aujourd'hui écrit des trucs sur Agnieszka, notre plus grande copine. Je me suis permis en lui demandant, en disant que franchement, son plus grand crime était que de faire en sorte que Jeff Santon ne soit pas assez beau. Et puis surtout, partagez ce podcast, commentez, dites-nous ce que vous en pensez, parlez-nous sur Facebook, parlez-nous à votre voisin, à votre chien, à votre concierge. Faites circuler la pensée. Les chats aussi, ils méritent d'écouter des podcasts. Et on vous retrouve probablement demain. C'est quoi le titre du podcast déjà ? Les écrans terribles chez les ours, épisode 4.
Good night.
Bonne soirée.